7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Et en ce jeudi 15 novembre, à la une de l'actualité, le mea culpa d'Emmanuel Macron. Je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants, a-t-il dit. Il était hier soir en direct sur TF1. Les tweets de Donald Trump, la fiscalité, la grogne. On entendra le président de la République dès le journal de 7h avec Hélène Zélani et puis l'analyse de Jean-Michel Apathy à 7h40. Sommes-nous plus près de nos sous? C'est une première en France depuis 12 ans. Les dons aux associations caritatives sont en baisse. Les Restos du Cœur, Médecins sans frontières, le Secours populaire, tous font ce même et triste constat. Ils s'inquiètent, il y a moins de sous pour les bonnes causes. Pourquoi donne-t-on moins? Enquête à suivre à 7h20 dans Repas va plus loin. 7h45, je reçois un amoureux de la liberté d'expression, le dessinateur Plantu, et ce à l'occasion de la commémoration du 13 novembre. Il publie un ouvrage à la fois drôle et profond pour nous parler de laïcité, de la place de l'islam dans la société, 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter. Plantu à 7h45. Est-ce que vous êtes en forme? Ça fait du bien de vous retrouver. Bon réveil à tous.
Et ça fait du bien de vous retrouver également, Nikos. Merci d'être à l'écoute d'Europe 1. Il est 7h, bon réveil. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Avec vous, Hélène Zélani, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Et Emmanuel Macron, hier soir sur TF1, il entend la colère des gilets jaunes, mais alerte sur les récupérations politiques et leurs contradictions. Marche de la colère hier soir à Marseille, après l'effondrement de plusieurs immeubles. 8000 manifestants au cri de Godin démission. Et puis Theresa May décroche un accord à l'arraché sur le Brexit. Un tiers de ses ministres s'est tout de même prononcé contre le projet d'accord négocié à Bruxelles.
Europe 1.
Respect et considération, voilà les deux mots employés par Emmanuel Macron à l'égard des gilets jaunes. Invité du journal de 20h de TF1 depuis le porte-avions Charles de Gaulle, le président a dit entendre ceux qui veulent manifester samedi, mais il a dénoncé le double langage de certains partis politiques.
Je voudrais quand même qu'on sorte d'une forme de poujadisme contemporain où les mêmes qui vous disent, à longueur de journaux télévisés, on paye trop d'impôts, vous disent, ne touchez pas aux dotations. Ne demandez pas d'efforts aux collectivités locales. Ne demandez surtout aucun effort ou aucun changement au monde du logement social. Mais... ne demandez aucun changement. Mais... ça n'est pas possible. Ensuite, je dis méfiance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent récupérer ce mouvement. Il y a beaucoup de partis politiques. La France insoumise, une partie des socialistes. Ils sont en train de s'opposer à des choses qu'ils avaient eux-mêmes votées. Bonjour tristesse et salut la cohérence. Je dis juste aux Français, on est en train de vous mentir et de vous manipuler.
Emmanuel Macron, hier soir, sur TF1 avec Gilles Boulot, on l'entend, le chef de l'État s'en prend aux récupérations de tous bords. Comment se positionner face à ce mouvement populaire des Gilets jaunes? À droite, on est un peu gêné aux entournures. Laurent Wauquiez participera lui-même à un rassemblement dans sa région, au Puy-en-Velay. Mais hier soir, à Nîmes, le président des Républicains l'a joué plutôt sobre, décevant du même coup les militants. Adrien Beck.
Est-ce la crainte d'être taxé de récupération? Devant le millier de militants gardois réunis hier soir, pas une fois Laurent Wauquiez n'a parlé du mouvement des Gilets jaunes, sans pour autant esquiver la question du carburant.
Ont-ils compris ce que représente une telle augmentation de fiscalité? Mais ils nous disent, c'est pour l'écologie. Mais l'écologie a très bon dos quand il s'agit de remplir les caisses de l'État.
Une discrétion qui n'est pas du goût de Charles, ce militant compte bien aller bloquer une entrée d'autoroute à la sortie de Nîmes.
Nos leaders ne manifestent pas une grande fierté à participer à cette manifestation.
Car le mot d'ordre de Laurent Wauquiez pour samedi, c'est ni blocage ni militantisme. Philippe assume de contourner la consigne.
Moi, j'irai tracter. Si je peux tracter, j'irai tracter pendant cette manifestation. Pourquoi ? Parce que maintenant, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on avance. Ce que moi, j'espère, et beaucoup de militants que je connais espèrent, c'est que Laurent, maintenant, il se bouge.
Sur la question des carburants et sur beaucoup de sujets, ajoute Philippe. Nîmes, Adrien Beck, Europe 1.
Et puis à retenir de l'intervention d'Emmanuel Macron hier soir, cette déclaration en forme de mea culpa, je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Nos concitoyens veulent trois choses, qu'on les considère, qu'on les protège, qu'on leur apporte des solutions. La considération, a reconnu le président, on ne l'a sans doute pas assez apporté. Il vient de passer la nuit à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Aujourd'hui, il sera au Maroc pour inaugurer le tout nouveau TGV entre Tanger et Casablanca. Cette ligne, elle sera la plus rapide d'Afrique et permettra de relier les deux villes en un peu plus de 2 heures au lieu de 4h45 aujourd'hui. On va parler 7h03.
À Londres, conseil des ministres marathon hier sur le Brexit.
Et victoire politique de Theresa May qui a finalement obtenu le soutien de son gouvernement sur le projet d'accord de sortie de l'Union européenne. Mais il a fallu une réunion de 5 heures extrêmement tendue. Anaïs Cordoba.
Cette victoire à l'arraché signifie que le plus dur reste encore à venir pour Theresa May. Hier soir, à Downing Street, au moins un tiers de ses ministres autour de la table se seraient prononcés contre le projet d'accord. Encore plus préoccupant, parmi les réfractaires figurent des poids lourds du gouvernement, comme le ministre de l'Intérieur ou celui des Affaires étrangères. Aussitôt, la réunion du cabinet terminée, pas une minute à perdre pour vendre le projet auprès des Britanniques. Sur le perron de Downing Street, Theresa May affirme croire avec sa tête et son cœur qu'approuver cet accord est dans l'intérêt du pays. Après des entretiens avec les principaux chefs de parti dans la nuit, elle plaidera en faveur du projet d'accord devant la Chambre des communes aujourd'hui. Les députés britanniques devront se prononcer sur l'accord dans les prochaines semaines. « It's my deal or no deal », c'est mon accord ou pas d'accord. Voilà la menace que la Première ministre devrait brandir pour faire pression sur eux. Un rejet du Parlement ferait tout tomber à l'eau, rendant hautement probable une sortie de l'Union européenne sans accord. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Et puis en Californie, 130 personnes sont toujours portées disparues dans les incendies qui ravagent le nord de l'État. Le bilan provisoire atteint 59 morts, la plupart dans la ville de Paradise, presque entièrement détruite par les flammes.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons partir à Marseille où des milliers de personnes ont crié leur colère contre le maire après l'effondrement de deux immeubles. A tout de suite.
Il est 7h06, votre matinale info, Nico Saliagas.
La suite du journal avec vous, Hélène Zélani. Ils étaient au moins 8000 selon les chiffres de la préfecture à manifester hier dans les rues de Marseille.
Et beaucoup de colère et de ressentiment à l'égard de la mairie après l'effondrement des immeubles rue d'Aubagne et ses 8 victimes. Des manifestants qui réclament le départ de Jean-Claude Gaudin. Reportage de Nathalie Chevance.
Par milliers, les Marseillais sont partis du quartier de Noailles, direction la mairie, avec en tête de cortège 8 flambeaux devant les portraits des victimes de la rue d'Aubagne.
La marche de la colère, c'est ça ? C'est une honte ce qui s'est passé sur Marseille, que des gens soient décédés pour des conneries de politique. On a honte de notre maire et de notre mairie. Ils le savaient, depuis des années c'est comme ça.
Habitants en péril, qui sèment la misère, récoltent la colère. Dans le cortège, des centaines d'habitants évacués ces derniers jours de leur logement insalubre.
Des bâtiments qui sont prêts à tomber et on s'en fout de nous. Et on paye des loyers exorbitants. Moi pour 15 mètres carrés, je paye 450 euros. Et j'ai ma terrasse qui bouge. J'ai la haine. Faut pas laisser la ville de Marseille partir en lambeaux.
Marseille en colère, que les responsables soient condamnés, Gaudin démission. Le cortège arrive sous les fenêtres du maire.
Je suis là pour lui dire, voilà, je suis allé trop loin, je me casse. On laisse détériorer les vieilles bâtisses de Marseille pour requalifier la ville, pour faire fuir les gens hors du centre.
Fin de manifestation, des projectiles sont jetés sur les forces de l'ordre. Réplique au gaz lacrymogène. La mairie reste silencieuse. Les drapeaux sont en berne. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et 5 personnes ont été arrêtées lors de ces violences hier soir.
On entendait les tirs, toi, c'était impressionnant.
Le rêve va devenir réalité, d'ailleurs, pour un petit garçon de 9 ans qui a perdu sa maman dans l'effondrement de son immeuble rue d'Aubagne. Grâce à l'appel lancé sur les réseaux sociaux par sa maîtresse, il va rencontrer son idole, le footballeur Kylian Mbappé. L'enseignante a également ouvert une cagnotte pour l'enfant. Oui. Une cagnotte qui dépasse déjà les 7000 euros. Et vous l'entendrez dans le journal de 7h30.
Maintenant, une autre affaire, un trafic de voitures, mais pas n'importe quelle voiture.
Oui, des 4x4 de luxe dérobés en région parisienne. Une vingtaine de personnes ont été arrêtées cette semaine, notamment dans le Val d'Oise. Elles avaient mis au point une méthode particulièrement élaborée pour s'emparer des véhicules et les envoyer ensuite à l'étranger. Pierre de Cossette.
Leur maître mot, discrétion et prudence. Et surtout, pas de violence. Hors de question d'attirer l'attention en extirpant de force un conducteur de son 4x4 au feu rouge. La bande de malfaiteurs prenait soin d'éviter tout contact avec le propriétaire. La technique, du repérage d'abord, des Range Rover HSE 70 000 euros au bas mot, souvent stationnés dans les rues ou les parkings des beaux quartiers parisiens. Ensuite, des méthodes empruntées aux enquêteurs, des balises GPS glissées sous les voitures pour les suivre à distance et aller les voler au meilleur moment. Parfois même des filatures. Une fois volés, les 4x4 étaient déposés pendant plusieurs jours sur des parkings publics pour s'assurer qu'ils n'avaient pas de système de géolocalisation interne et que la police ne venait pas les récupérer. Ensuite, direction le Mali pour y être revendus, en passant le plus souvent par le port du Havre. En 10 mois d'enquête, les policiers et gendarmes ont pu récupérer certaines de ces voitures à temps, 4 notamment lors des interpellations. Un trafic qui représente au minimum une cinquantaine de 4x4, 3 millions d'euros de préjudice.
Pierre de Cossette et puis les footballeurs de l'équipe de France s'envolent ce matin pour Rotterdam. Demain soir, ils affronteront les Pays-Bas en Ligue des Nations et parmi eux, N'Golo Kanté qui plus que jamais mérite le titre de chouchou du public. On sait désormais par une enquête de Mediapart qu'il a refusé le montage financier que lui proposait le club de Chelsea avec paiement d'une partie de ses revenus dans un paradis fiscal.
Décidément très sympathique ce N'Golo Kanté. C'était le journal de 7h présenté par vous Hélène Zélani. Merci.
L'actualité vous interpelle, on attend vos réactions sur le répondeur au 3921 et puis sur les réseaux sociaux également avec le hashtag Europe 1. Il est 7h10.
La matinale d'Europe 1.
Nico Saliagas.
À l'heure de l'édito éco de Nicolas Barré, Nikos.
Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Mais qu'est-ce qui se passe en Allemagne, Nicolas? La croissance a été négative au dernier trimestre. Mais ça, c'est du jamais vu. C'est quoi la cause? La transition écologique? Vraiment?
Bah écoutez, si vous pensez que la transition écologique, effectivement, est forcément bonne pour l'économie, il n'y a qu'à voir en Allemagne. La croissance a été négative, en effet, de 0,2% au troisième trimestre. Et l'une des principales explications provient de la mise en œuvre de normes anti-pollution automobile qui ont complètement désorganisé la production. Volkswagen a annoncé une conversion de deux de ses usines dans la production de voitures électriques. Mais le DRH de Volkswagen a prévenu hier, je le cite, « La fabrication des voitures électriques nécessite moins de tâches et donc moins d'emplois. » Et donc, en effet, pour l'industrie automobile allemande, la transition écologique va se traduire par une réduction de la production industrielle et donc peser sur la croissance.
Et peser avec un impact considérable. Ça veut dire que la croissance de la première économie européenne est en train d'être divisée par deux.
Oui, en rythme annuel, on est passé de 2% au printemps à 1,1% aujourd'hui. L'autre raison de ce ralentissement, ce sont les tensions commerciales, notamment avec les États-Unis. Les exportations allemandes marque le pas. D'ailleurs, on voit la même chose au Japon qui vient d'annoncer, là, ce matin, une croissance négative de 0,3% au troisième trimestre. Les Allemands, eux, craignent des représailles de Trump sur le cœur de l'industrie allemande, donc l'automobile, dont les trois quarts de la production est exportée. Alors, sur l'ensemble de l'année, le gouvernement allemand espère néanmoins un rebond pour atteindre 1,8% de croissance. Mais enfin, le patronat de l'industrie, lui, est plus inquiet. Le risque de récession n'est pas totalement exclu. En Allemagne, quand l'économie s'enrhume, toute l'économie souffre.
Nicolas Barré, l'édito éco, c'est tous les jour sur l'antenne d'Europe 1 à 7h10.
Il est 7h12, Nikos, l'heure de retrouver Carole Ferry qui est sur le terrain.
Content de vous retrouver, Carole.
Moi aussi, Nikos.
Vous êtes où ce matin?
Eh bien écoutez, je suis au milieu des tours, sur la place du marché dans le quartier de Bagatelle, c'est au Mirail à Toulouse. Mmh. Et si je suis là, eh bien c'est parce que le Tour de France passera ici en juillet prochain. Et c'est un événement, hein, parce que le Tour de France dans un quartier sensible, eh bien c'est extrêmement rare. On le doit à l'association Media Pichun, c'est une association du quartier qui s'est battue très longtemps pour y arriver. Hayat a 16 ans aujourd'hui, elle est là depuis le début.
On se dit que ben, c'est l'aboutissement de 10 ans de projet. On est très très fiers de ramener le Tour de France en bas de nos quartiers. On s'est dit qu'un papa il regardera du haut de sa tour. Un papa qui habite au 8e étage, il ouvre sa fenêtre, il verra tout le peloton, il verra tout le public, toute la fête. En plus, là, le Tour de France, ça fait du bruit, il y a de la musique, c'est très très joyeux. Donc là, je pense que ça pourrait mettre notre quartier en avant.
Alors c'est vrai que quand on parle de cité, quand on pense à la vie dans une cité, ça ne va pas automatiquement au Tour de France. C'est vrai qu'on est plus dans un stéréotype de jeunes passionnés par le foot avec un ballon
oui,
dans un coin.
On est bien d'accord, Nico. Sauf qu'ici, eh bien, ça fait donc 10 ans hein, que les jeunes vont tous les ans sur les étapes du Tour de France jouer les apprentis journalistes. Ils ont même un blog hein, et le vélo, eh bien, ils connaissent par cœur. Écoutez, Jeanne n'a aucun mal hein, à défendre cette culture cycliste.
Certains diront que le foot c'est collectif et le vélo c'est solitaire, mais ils se trompent. Parce que le cycliste travaille en équipe, ils font déjà un travail de fou pour élever leur leader. Et puis après, bon d'accord, le foot il y a de l'effort. Mais quand on voit les cyclistes en sueur finir une étape vraiment à l'arracher au sprint, et ben je trouve que c'est beau et que c'est inspirant, même si une Coupe du Monde c'est jamais de refus.
Elle est superbe. Elle serait une dircom absolument fantastique pour le Tour de France.
Je vous
Jeanne.
Le confirme. Et je peux vous dire qu'ils sont tous devenus accros en fait. Ils font même du vélo les mercredis. Ça va encore plus loin, ça les a aussi beaucoup ouverts aux autres. Écoutez, Ayoub, il a fait Paris-Toulouse à vélo et il l'a fait pour la bonne cause.
En fait, on récoltait des dons à chaque ville contre une maladie, la spondylarthrite ankylosante et le cancer. Et arrivé à Paris, on a fait une grosse cagnotte et on l'a donnée à la recherche contre la maladie.
Voilà, vous l'avez compris, hein, le Tour de France, le vélo, ça a vraiment changé la vie de ces jeunes du Mirail. Beaucoup d'ailleurs veulent devenir journalistes, hein, mais pas que. L'un d'eux vient de commencer une formation de mécanicien cycliste. Son rêve, réparer les vélos des équipes du Tour.
En tout cas, le 18 juillet, le Tour de France
Exactement.
Passera au Mirail, à Toulouse. Et merci pour ce joli reportage, c'est un très beau projet. On suivra le Tour de France et notamment le passage du peloton cet été. Vous êtes où ce matin? C'est tous les jours à 7h12 sur Europe 1.
Et il est 7h14, restez avec nous sur Europe 1 à suivre Nico Saliagas.
Sommes-nous plus radins qu'avant? C'est une première en 12 ans. Les dons aux œuvres caritatives sont en baisse. C'est un coup dur pour les associations. On vous explique pourquoi dans un instant dans Europe 1 va plus loin. Bon réveil à tous.
Il est 7h17, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Respect et considération. Emmanuel Macron dit entendre la colère des gilets jaunes, mais il dénonce la récupération politique. Le président reconnaît aussi qu'il n'a pas réussi à réconcilier les Français avec leurs dirigeants. 8000 personnes dans les rues de Marseille pour crier leur colère après l'effondrement de plusieurs immeubles. Ils réclament la démission du maire de la ville, Jean-Claude Gaudin. Verdict pour Jean Jeutron aujourd'hui devant les assises de Seine-Saint-Denis. 6 ans de prison ferme ont été requis pour les deux viols des deux ex-employés de la mairie de Draveil. Et puis la météo, encore pas mal de brouillard ce matin, mais les éclaircies reviendront dans la journée, surtout près de l'Atlantique. Température de 7 à 21 degrés cet après-midi.
Météo complète avec Laurent Cabrol juste avant 7h30. Europe 1. Nico Saliagas, Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin aux dons des Français aux associations.
Sommes-nous moins généreux qu'avant? En tout cas, les associations caritatives sont très inquiètes car les dons chutent. Moins 6,5% au premier trimestre 2018. Les Restos du Cœur, Médecins sans frontières, le Secours populaire, pour ne citer qu'eux, tous constatent cette baisse significative et c'est la première depuis 12 ans. Bonjour Victor Delorme de la rédaction d'Europe 1. Concrètement, pourquoi Bonjour. Les gens donnent-ils moins cette année?
Il suffit de tendre le micro dans la rue pour se rendre compte que pour ceux qui avaient l'habitude de donner, même pour ces donateurs, ça devient très compliqué.
Je donnais, mais maintenant je donne plus parce que la vie est trop chère. Mon quotidien c'était bien avant, je travaillais, maintenant je suis en retraite. Alors la vie a changé, on se restreint, on peut pas tout faire.
Écoutez, il faut bien vivre et survivre, hein. Donc le gaz augmente, tout augmente, donc forcément il faut rogner sur quelque chose. Ce sont les dons là, en premier.
Il faut bien se nourrir, il faut bien s'habiller et on pense d'abord à nos pauvres petites personnes plutôt qu'à aider les autres et c'est un peu regrettable, ouais.
Alors on entend bien l'argument des Français qui s'expriment sur notre antenne, la baisse du pouvoir d'achat, certes, mais... pourquoi les dons baissent-ils encore plus cette année? Le pouvoir d'achat qui diminue, ça ne date pas d'hier.
Non, mais ça s'accentue. L'un des premiers facteurs de cette diminution des dons, c'est la hausse de la CSG pour les retraités. Un peu plus de la moitié des donateurs ont plus de 50 ans. La hausse de la CSG, ça représente donc quelques dizaines d'euros à la fin du mois en moins. Ces dizaines d'euros, ce sont justement ceux qui manquent dans les caisses des associations. Autre raison de la baisse des dons, la suppression de l'impôt sur la fortune qui n'incite plus les plus aisés à défiscaliser. Mmh. Et puis, il y a le prélèvement à la source qui inquiète énormément les potentiels donateurs. Ils ont l'impression que leurs dons seront moins déductibles d'impôts qu'auparavant, ce qui est faux au passage. Mais cette crainte, les Restos du Cœur l'ont parfaitement identifiée sur leur site internet. Vous disposez d'une calculette fiscale spéciale prélèvement à la source pour comprendre comment vous pourrez déduire vos dons à partir du 1er janvier prochain.
Alors quel impact, Victor? Les associations vont-elles devoir renoncer à certaines de leurs actions?
Oui, c'est déjà le cas. Certaines sont annulées. Prenez l'Institut Pasteur qui vit des dons pour la recherche. Le docteur Jean-François Chambon, directeur du mécénat, quantifie précisément le manque.
Le résultat global, il sera de l'ordre de moins 15% de collecte, ce qui représente à peu près 2,5 millions, 3 millions d'euros par rapport à une collecte 2017 qui avait été de l'ordre de 21 millions d'euros. 2,5 millions d'euros, c'est le financement de 2 unités de recherche. Si ce ralentissement de la collecte se confirme et voire s'amplifie, alors on aura un vrai problème.
2 unités de recherche en moins pour l'Institut Pasteur. Avec nous, Christophe Robert au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Et pour vous, concrètement, ces baisses, ça représente quoi?
Écoutez, cette baisse, elle représente à peu près 5 à 6% des dons qui sont aujourd'hui générés à l'intention de la Fondation Abbé Pierre. Donc, vous avez bien expliqué les trois facteurs. Hein. Je crois que le principal à ce jour, c'est quand même cette hausse de la CSG, notamment pour les ménages retraités, parce que la CSG, du coup, n'est pas compensée par la baisse des cotisations sociales, parce que, par définition, ils ne sont pas salariés. Mmh. Donc, on a beaucoup de courriers, beaucoup de témoignages de donateurs fidèles depuis longtemps qui nous disent « bah, moi, c'est très difficile. Je vois augmenter le gaz, je vois augmenter le diesel. Je peux pas, alors je vais peut-être vous donner moins, ou je vais plus vous donner, ou je vais pas vous donner pendant un temps. » Toujours est-il qu'effectivement, quand on regarde le budget de la Fondation Abbé Pierre, il y a seulement 2% de subventions publiques. Le reste, c'est de la générosité du public. Donc, oui. Toutes les actions qu'on mène pour les mal logés, de la construction à l'accès aux droits ou aux dispositions pour aider les personnes à la rue, eh ben, c'est autant d'aides qui seront moins accordées pour les associations ou nos actions directes, si vous voulez. Donc, on a là un sujet d'inquiétude majeure quand même, même si je ne crois pas que la générosité des Français dans leur ensemble soit mise en cause, si vous voulez. Mais il y a vraiment une question autour du pouvoir d'achat et la capacité capacité d'agir.
Oui, cette baisse des dons, elle est d'autant plus inquiétante qu'elle s'accompagne d'une diminution des subventions des collectivités.
Oui, alors c'est ce qui nous inquiète beaucoup à la Fondation Abbé Pierre, parce que, pour vous donner une idée, on contribue au financement à peu près de 900 actions portées par 450 associations, et ça déjà depuis 3-4 ans, les associations nous disent, ben, nous il y a des baisses des subventions de la ville, du département, de la région, de l'État, il y a des actions qu'on n'arrive pas à mener, il y en a certaines où on n'est plus à l'écoute de ce qui se passe réellement sur le territoire, parce qu'on est obligé de répondre à des appels à projets, mais en dehors de ça, point de salut. Est-ce que vous, la Fondation Abbé Pierre, vous êtes prêt encore à financer pour aider telle personne dans les bidonvilles, telle personne en difficulté? Et il ne faudrait pas qu'il y ait un croisement de facteurs qui conduisent à une baisse de la réponse pour les plus fragiles. C'est ça notre principale inquiétude.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Français ce matin qui nous écoutent, qui ont certes des difficultés comme tout le monde, parfois à la fin du mois, mais vous demandez quoi? L'obol, une participation symbolique ou tout simplement un suivi sur du long terme?
C'est une question difficile. Les donateurs, pour beaucoup, sont des personnes assez modestes. Et donc, effectivement,
ce ne sont pas les plus riches qui donnent, vous nous dites, par expérience.
C'est-à-dire que oui, le socle quantitativement significatif des donateurs, c'est beaucoup de personnes modestes. D'où la réactivité à ces évolutions fiscales de pouvoir d'achat. Si des personnes aujourd'hui ne peuvent plus donner, on ne va pas leur dire continuer à donner absolument. Enfin, ils ont leur fin de mois difficile, il faut qu'on soit prudent sur ce que l'on dit là-dessus. Mais il y a peut-être d'autres qui peuvent donner. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un équilibre qui s'opère à l'échelle du pays sur cette solidarité? J'allais dire, c'est un petit peu comme la question de l'impôt, c'est la justice sociale, le partage, la solidarité, si vous voulez. Donc, l'espoir que nous avons, nous, c'est que nous sentons une France solidaire, attentive aux plus fragiles. Et donc, il devrait y avoir, me semble-t-il, des possibilités de rééquilibrage.
Merci beaucoup. On va rester sur cet appel lancé ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Soyez généreux à l'approche des fêtes de fin d'année. Comme vous pouvez, une pièce reste une pièce, mais elle peut changer le quotidien des autres. C'est aussi défiscalisable, il faut le rappeler. Merci Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Et merci Victor Delande de la rédaction d'Europe 1 et Jean-Jacques Herry pour cette enquête. Europe 1 va plus loin, c'est tous les matins à 7h20. C'est
Europe 1, il est 7h25.
À suivre l'innovation avec Anissa Mbida, on va parler d'antibiotiques ce matin. Les antibiotiques marchent-ils encore? En tout cas, Anissa a peut-être une solution. A tout de suite.
Il est 7h27.
Retrouvez l'innovation du jour avec EDF.
Et avec Anissa Mbida, Nico Saliegas.
Il ne faut pas s'auto-médicamenter. Il faut arrêter de prendre des antibiotiques et jouer au médecin. Pour autant, 40 millions d'euros supplémentaires viennent d'être débloqués pour lutter contre la résistance aux antibiotiques. Et cela ne sera pas de trop car la recherche a beaucoup de mal à trouver de nouveaux antibiotiques. Ils ne sont pas toujours efficaces ou plus efficaces.
Oui, parce que est-ce que vous savez combien de nouveaux types d'antibiotiques ont été découverts ou sont arrivés sur le marché ces 50 dernières années? Un chiffre.
Oh là là, j'en sais rien du tout.
Non, allez-y.
Deux seulement.
Oui,
et c'est un véritable problème parce que les antibiotiques, c'est formidable pour soigner des infections, mais à force d'en prescrire, eh bien, les bactéries deviennent de plus en plus résistantes. Donc on doit absolument trouver de nouveaux antibiotiques, sinon on finira par ne plus pouvoir soigner des infections aussi banales que les angines.
Est-ce qu'on a une piste pour trouver de nouveaux antibiotiques?
Oui, on commence à en avoir. Les chercheurs de la société GenTech viennent par exemple de trouver une technique pour percer la double membrane des virus, des bactéries les plus virulentes. Et c'est une membrane qui jusqu'ici résistait aux antibiotiques. Donc on a peut-être trouvé une arme fatale pour ces fameuses bactéries qui sont multirésistantes. Et par ailleurs, il y a d'autres avancées comme par exemple un nouveau test sanguin qui permet d'éviter les prescriptions multiples en donnant justement uniquement l'antibiotique qui est le plus efficace. Donc on évite d'en avoir trop dans la nature et que ces fameuses superbactéries arrivent.
Oui, parce que des auditeurs qui nous écoutent le savent, on peut avoir des traitements qui durent plusieurs semaines, plusieurs fois dans l'année, lourds et qui ne marchent plus en fait. Donc ce sont plutôt des bonnes nouvelles.
Oui, mais là simplement il faut rappeler qu'on parle de recherche en laboratoire. Avant de pouvoir avoir ces antibiotiques, ces superbes médicaments dans les magasins, il faudra patienter entre 7 et 10 ans pour vérifier qu'il n'y a justement aucun danger pour l'homme. Donc en attendant, on continue à faire attention. Les antibiotiques, comme le dit le slogan, c'est pas automatique. Voilà. C'est précieux. Utilisons-les. C'est le nouveau slogan du gouvernement.
Alors, un chiffre important. En 2017, l'année dernière en France, 759 tonnes d'antibiotiques ont été vendues. C'est considérable. Anissa Mbida, innover pour garder la forme, c'est tous les jours à 7h25.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Énergie nucléaire et renouvelable. Aujourd'hui, EDF agit pour la transition énergétique et s'engage en faveur d'une électricité bas carbone. Plus d'infos sur edf.fr.
Dans un instant, le journal de Céline Kallmann.
La météo avec Rénoval, le réseau national de véranda et abri de piscine.
Mais tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol-Nicos.
Le mot-clé météorologique du jour, mon cher Laurent.
C'est le brouillard, une tendance qui s'annonce exactement la même qu'hier, avec des températures qui vont se situer entre 11 et 19 degrés, donc relativement douces, 12 à Paris, 16 à Lyon, et puis les brouillards qui vont se disperser à leur guise, et selon leur bon vouloir, les meilleures chances pour quand même les deux tiers de la France, les plus pénalisés, la Picardie, la région parisienne, le Nord, la Champagne-Ardenne, et les régions qui bordent la Méditerranée.
Merci Laurent Cabrol.
Et bon réveil.
On se retrouve tout à l'heure avant le journal de 8h. Bon réveil Céline.
Nous sommes le jeudi 15 novembre, il est 7h30.
7h, 9h.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Céline Kallmann pour le journal de 7h30.
Bonjour à tous. Bonjour. À la une de ce journal, l'histoire poignante et le rêve bientôt exaucé d'un petit garçon devenu orphelin. Il a perdu sa maman dans l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne à Marseille. Elle a mine et passionnée de football, fan de Kylian Mbappé, champion du monde, et de Florian Thauvin, attaquant à l'OM. Chloé, l'une des enseignantes de son école, a eu l'idée de tenter l'impossible pour l'anniversaire de ses 10 ans, organiser une rencontre entre le petit garçon et ses idoles. Un rêve qui va bientôt se réaliser.
Il adore le foot, il en parle tout le temps. Et donc, comme c'est son anniversaire le 19, je me suis dit, la chose qui pouvait lui faire le plus plaisir, ce serait d'avoir ou de rencontrer ou d'avoir un message d'un joueur qu'il aime. Donc, je lui ai demandé qui elle aimait, en espérant qu'il parle de l'OM, puisque je pensais ça plus accessible pour une Marseillaise. Et il m'a répondu Kylian Mbappé. Je me suis dit, bon, là, ça va être compliqué. Bon, alors, je lui ai dit, mais... est-ce qu'il y a des joueurs de l'OM que tu aimes? Alors il m'a dit Florian Thauvin, qui ne tente rien n'a rien.
Et ça va marcher?
Oui. Il n'ose même pas imaginer que ça puisse arriver, donc c'est super.
Qu'est-ce qu'on peut dire de ce petit garçon?
Là, il souffre. Ce qu'il vit, c'est dur. Mais je me dis que voilà, un petit peu de bonheur, ça sera bien pour lui.
Chloé, enseignante à Marseille avec Nathalie Chevance. Hier soir, 8000 personnes en colère ont défilé juste sous les fenêtres du bureau de leur maire Jean-Claude Gaudin. La tension est montée d'un cran en fin de cortège et 5 personnes interpellées après des échauffourées avec les forces de l'ordre.
Le président de la République a admis hier soir sur TF1 qu'il n'avait pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants.
Interrogé sur la fronde des Gilets jaunes, le chef de l'État a assuré entendre la colère. Attention à la récupération politique, a-t-il dit. Que risquent les Gilets jaunes qui participent à une manifestation non déclarée? Un organisateur peut écoper de 6 mois de prison, 7 500 € d'amende. L'entrave à la circulation est un délit passible de 2 ans d'emprisonnement, ce qui ne va pas freiner cet automobiliste de 27 ans qui habite en Gironde.
Connaître la vérité de où va notre pognon en ce moment. Nous allons manifester, tous les citoyens, ensemble, montrer notre colère. Sur l'autoroute, nous allons bloquer la circulation. Nous espérons qu'il y ait quand même beaucoup de monde.
Est-ce que vous avez déclaré cette manifestation en préfecture, ce qui est obligatoire?
Pour moi, une colère, des ressentis, je pense pas que ça se déclare en préfecture, surtout une liberté d'expression.
C'est quand même la loi, c'est-à-dire que vous vous exposez à des poursuites.
Oui, je sais très bien qu'on se met face à ce problème, mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis dans la pensée que c'est Macron qui nous a réunis ici. Il faut tenir déjà jusqu'à l'arrivée des routiers. Et s'il faut tenir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on tiendra.
Un propos recueilli par Stéphane Place pour Europe 1.
Et dans quelques minutes, on parlera avec Jean-Michel Apathy de cette interview du président de la République hier soir sur TF1.
Beaucoup de zones d'ombre encore ce matin dans l'affaire d'abus sexuels et de maltraitance sur 4 jeunes garçons dans la Nièvre. Au total, 8 personnes mises en examen, dont une femme placée sous contrôle judiciaire, Nathalie, 37 ans, dont le compagnon est lui derrière les barreaux. Elle est persuadée qu'il n'a rien à se reprocher et elle-même clame son innocence.
Je crie mon innocence, parce que j'ai jamais fait de mal à un enfant de ma vie. Puis un enfant, on fait pas de mal à un enfant, c'est sacré un enfant. J'ai maman, moi j'ai pas vécu heureuse dans ma vie. J'ai toujours dit le jour où j'aurai des enfants, jamais je leur mettrai une fessée, parce qu'ils ont jamais pris de fessée de ma part, quoi. Et encore moins des abus sexuels sur des enfants, quoi.
Tout ce qu'on lui reproche, hein, les viols, les attouchements, tout ça, vous les rejetez.
Ah oui, de toute façon, ça c'est sûr. C'est pas le gars violent. Il boit pas, il fume pas, c'est vraiment. Il a le cœur sur la table. Franchement, c'est un nounours, quoi, leur père.
Vous pensez que ce sont des affabulations des enfants?
Par rapport à ce qu'il a dit sur son père, oui. Ou alors il a la tête montée.
Un propos recueilli par Jeanne Bergaoui pour Europe 1. Le directeur général de la Santé va présenter ce matin un dispositif national de surveillance et d'investigation des cas de malformation. Ce sont les suites de l'affaire des bébés sans bras, où plusieurs cas ont été identifiés dans l'Ain, la Loire-Atlantique et le Morbihan. Qu'attendent les parents de ces enfants concernés? François Coulon a posé la question à une maman habitante de Guidel. Sa fille Charlotte, 6 ans, est née sans avant-bras gauche.
On attend vraiment du concret, en fait. On parle clairement d'investigation de terrain. Malheureusement, on a perdu un temps précieux. Donc, est-ce qu'on va pouvoir encore retrouver des choses quand on parle de marqueurs biologiques? Est-ce que ce sont des choses qui sont encore présentes sur les lieux, notamment Guidel? Les sols n'ont pas été analysés. Il n'y a pas eu de prélèvement. La qualité de l'eau, comment est-ce qu'elle est contrôlée? Et c'est des questions comme ça.
La pire des catastrophes, c'est qu'on nous redise dans X années, on n'a pas trouvé, et que de nouveau, il n'est pas fait d'investigation suffisamment poussée, selon nous, quoi.
Isabelle Témangrassin, au micro Europe 1 de François Coulon. Georges Tron va-t-il aller en prison? Après 4 semaines de débat devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, le verdict est attendu aujourd'hui. Le maire de Draveil et son ex-adjointe sont soupçonnés d'agression sexuelle et viol en réunion. 6 ans de prison requis contre Georges Tron, 4 contre Brigitte Gruel.
La colère des ténors du barreau de Paris qui dénoncent une dérive du système pénal français.
Et ils se mobilisent devant le palais de justice aujourd'hui à Paris et dénoncent un projet de loi qui vise en théorie à rendre la justice plus rapide, plus efficace. Mais selon eux, il s'agit en fait d'une régression et pour le rôle des avocats et pour les victimes. Les procureurs auraient plus de pouvoir. Des avocats qui se sentent floués par le gouvernement. Écoutez Jacqueline Lafont, elle est avocate pénaliste avec Salomé Legrand.
Je me souviens très bien de notre première réunion dans le cadre des chantiers de la justice. Nos interlocuteurs nous ont dit que cette loi n'a pas pour objet de porter atteinte au fondement de la procédure pénale actuellement, mais simplement de recueillir un certain nombre de petites recettes pour pouvoir faire en sorte que la procédure pénale soit plus simple, plus rapide. Quelle ne fut pas notre surprise de voir qu'en réalité, il y a des principes fondamentaux de notre droit qui sont en cause, qui va dans le renforcement de procédures dans lesquelles les avocats sont absents, les avocats de la défense, les avocats des victimes également, et procédures dans lesquelles le principe du contradictoire et de l'égalité des armes n'est pas respecté, qui sont un vrai souci pour notre démocratie.
Et notez que l'avocat Hervé Temim sera l'invité de Wendy Bouchard tout à l'heure sur Europe 1 dans le tour de la question à 9h.
C'était le journal avec vous, Céline Kallmann. N'hésitez pas à réagir sur le répondeur de la matinale.
Oui, et pour ça, c'est très simple. Vous nous appelez au 3921. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 7h36.
Vous l'avez vu, Jean-Michel Apathy, le président de la République hier?
Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai regardé. Écoutez.
Ah oui, en plus, sur le pont. Il était littéralement sur le pont.
Sur le pont. Il était sur le pont avec un peu de bruit de fond, oui.
Est-ce qu'il a réussi à apaiser les colères des Français?
Il a sans doute atteint son objectif et il a fait un peu plus que ça. Il a dévoilé un peu de son intimité, c'est-à-dire de la douleur qu'il y a à être président de la République. À être aussi contesté qu'il l'est aujourd'hui.
L'analyse de Jean-Michel Apathy sur Europe 1, c'est juste après ceci. A tout de suite, bon réveil.
Il est 7h40, Nico Séléguès, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Et on revient évidemment sur cette intervention du président de la République hier soir au JT de TF1. Il était sur le porte-avions et il s'exprimait avec Gilles Boulot. Il a tenté d'apaiser les colères à 3 jours de la mobilisation des Gilets jaunes. Ça préoccupe tout le monde, cette journée noire.
Alors, ça préoccupe tout le monde parce que c'est une journée atypique, on en a parlé. Ça préoccupe beaucoup le président de la République parce qu'il comprend qu'il se jouera samedi quelque chose d'important. Hier, il n'a pas essayé de dissuader les gens qui avaient envie d'aller manifester, d'y aller. C'était pas du tout le registre jupitérien hier qu'a choisi Emmanuel Macron. Il était au contraire dans la pédagogie parce que il faut bien expliquer à ceux qui soutiennent ou ceux qui regardent sans trop d'hostilité son action ce qui se passe. Donc la pédagogie. Et puis beaucoup de bienveillance, beaucoup de sympathie ou beaucoup de compréhension vis-à-vis de ceux qui se disent en colère. C'était un président de la République inhabituellement modeste hier. Ça, vraiment, c'était assez fort. Et au fond, Emmanuel Macron a tellement peu l'habitude de ce registre qu'il a même dévoilé, à mon avis un peu trop, mais je vais vous expliquer ça, un peu trop de son intimité. La forme de désenchantement qu'il y a chez lui après 18 mois au pouvoir, c'est visiblement beaucoup plus dur qu'il ne l'avait imaginé. Et Emmanuel Macron a eu cette phrase, écoutez-la bien, qui est incroyable dans la bouche d'un président de la République.
Je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants.
Qu'est-ce qu'il y a d'incroyable? C'est « je n'ai pas réussi ».
Il le prend.
Mais oui, il le prend, mais ouais, le quinquennat n'est pas fini.
Ouais.
L'expression correcte, c'est « je n'ai pas encore réussi » ou « je n'ai pas réussi pour l'instant à réconcilier les Français et leurs dirigeants ». Mais « je n'ai pas réussi », c'est comme un aveu d'échec. Et ça dit, là, dans l'intimité du président, la douleur qu'il ressent dans sa fonction de président de la République et d'être aussi contesté qu'il l'est. Et ce bleu à l'âme, normalement, on ne le montre pas et c'était quand même très étonnant. Sur le fond, Emmanuel Macron a raison. Ça fait très longtemps que les dirigeants français, les citoyens, ont un problème. Depuis 1978, la France n'a pas reconduit des sortants. C'est-à-dire qu'en 78, Raymond Barre est reconduit, mais après, Valéry Giscard d'Estaing est battu, Mitterrand est battu en 86, Chirac est battu en 88, et ainsi de suite jusqu'en 2017, quand François Hollande n'est même pas capable de se représenter. L'histoire de la brouille entre les citoyens et le pouvoir est très ancienne en France. Et le 17 novembre, bien sûr, se nourrit de cette méfiance. Et Emmanuel Macron vit très mal cette méfiance. Donc il faut maintenant attendre la journée de samedi. Est-ce qu'il y aura du monde? Comment ça va se passer? Pour voir dans quelles conditions Emmanuel Macron pourra poursuivre son quinquennat.
On vous dira tout sur Europe 1, évidemment, ce week-end. Jean-Michel Apathy, c'est tous les jours à 7h40. À présent, c'est vous qui le dites. Chaque matin, vous réagissez à l'actualité sur le répondeur d'Europe 1, le 3921. Et toujours beaucoup de messages à propos de cette fameuse mobilisation de samedi. On écoute le témoignage de Sylvie, elle habite à Paris. Mais d'abord, voici Kamel de Seine-Saint-Denis.
Le message que j'ai envie de dire, c'est que d'une part, c'est positif pour la République que les gens se mobilisent, les citoyens lambda, comme moi, se mobilisent. C'est d'envoyer des messages clairs pour, effectivement, lutter contre ces hausses et que quelque chose ressorte de tout ça.
On est très négatif, nous les Français, à toujours se plaindre. Mais hier, j'étais malade et je suis allée à l'hôpital pour me faire soigner et conseiller. Tout ça était gratuit. Donc on a beaucoup, beaucoup d'avantages. Donc il ne faudrait pas jouer avec le feu. On a quand même beaucoup de chance de vivre dans ce merveilleux pays.
C'est vous qui le dites, c'est tous les matins à 7h42. Laissez votre message sur le répondeur d'Europe 1 au 3921 ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 7h44, Nikos Aliagas.
Il fait la une du journal Le Monde tous les jours avec son dessin. 3 ans après les attentats du 13 novembre, Plantu publie aujourd'hui 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter. Un titre cynique, mais significatif. Aux éditions du Seuil, un dessin, ça sert souvent à faire du bien là où les gens ont mal, dit-il. Il est mon invité dans un instant. Plantu sur Europe 1, c'est juste après ça, tout de suite.
Il est 7h46, les principaux titres à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
Verdict attendu aujourd'hui dans le procès de Jean Jeutron. 6 ans ont été requis contre le maire de Draveil, accusé de viol et d'agression sexuelle sur 2 anciennes employées municipales. Son avocat, Maître Dupont-Moretti, a quant à lui demandé l'acquittement. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées hier soir devant la mairie de Marseille pour une marche de la colère après l'effondrement meurtrier de 2 immeubles rue d'Aubagne. Des heurts ont éclaté avec la police. Emmanuel Macron effectue une courte visite au Maroc. Il va inaugurer avec le roi Mohamed VI la ligne à grande vitesse entre Tanger et Casablanca.
Europe 1. Nikos Aliagas, vous recevez ce matin le dessinateur de presse Plantu pour son livre « 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter » publié aujourd'hui aux éditions du Seuil.
Bonjour Plantu.
Bonjour.
Ce livre, ce sont des dessins nouveaux et plus anciens aussi que vous avez montré au recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker. Ce recueil de dessins traite du fanatisme religieux et d'autres formes de fanatisme. Pourquoi cette rencontre ?
Parce que depuis longtemps, je me pose des questions. Je vais beaucoup dans les écoles. J'ai créé une association avec des dessinateurs de presse du monde entier qui s'appelle Cartooning for Peace.
Avec dessin... Kofi Annan, avec Kofi Annan, que vous avez soutenu. Oui.
Et qui est que je remercierai jamais assez de m'avoir incité à réunir ces dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans. Et finalement, on va dans les écoles. Comme il y a encore 4 jours, on était avec des petits jeunes israéliens, des petits palestiniens, des petits marocains. Donc, il y avait des juifs, il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens. Mmh. Et on voit bien qu'il y a des malentendus.
Et vous dites quoi, par exemple? Des malentendus autour de quoi?
Alors, le vieux gros malentendu, c'est vos copains, ils ont été tués, c'est bien fait. Ils l'ont cherché. Ça, je l'entends.
On parle de Charlie Hebdo. Ils l'ont cherché, en fait.
Je l'entends presque tous les jours.
Et qu'est-ce que vous répondez à ce moment-là?
Ah, je suis équipé. Je suis équipé parce que je me balade avec un iPad, j'ai des dessins, j'ai un écran. Et donc, ces références-là, j'ai plein de dessins pour leur répondre. Mmh. Et je leur montre des dessins qui vont les énerver et des dessins qui vont les calmer. Et je joue un peu avec les deux. C'est-à-dire que...
Ça suffit, un dessin peut changer une mentalité ou un raccourci.
Ça délie les langues. Ça libère la parole et je préfère entendre, parce que j'entends des bêtises aussi, hein, et je préfère entendre des bêtises que d'entendre des balles siffler. Et ça, on n'en est que là. On en est pour le moment, notre démocratie, elle est un peu fragile et il faut être à l'écoute de tous ces gens. Et j'aime, avec mes amis du Seuil, des éditions du Seuil, on s'était dit, moi je vais interroger des intellectuels, des professeurs. On travaille énormément avec les professeurs que je remercierai jamais assez. Parce qu'ils font un boulot formidable dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Et puis j'ai dit, oh ben après tout, un imam, ce serait bien. Et puis on pourrait... Tiens, ben pourquoi j'irais pas voir le recteur de la mosquée de Paris?
Ça commence comme ça, en fait.
Exactement. Ouais. Et au lieu que ce soit un livre, 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter, parce que en fait, je voudrais savoir pourquoi on va inciter tendrement je dis exprès le mot tendrement parce que je veux bien paraître pour un gentil petit naïf alors que je suis pas du tout naïf, mais c'est une époque où on voit bien un tsunami d'islamophobie, je vois un tsunami d'antisémitisme, et nous, avec nos deux petits seaux, on essaye de décoper et de faire, de limiter les dégâts. Et donc, je me suis dit, tiens, moi, je vais aller voir le recteur de la mosquée de Paris. Et alors, moi, je comptais le voir un peu pour me présenter, je le connaissais pas, et pendant 5 ou 10 minutes, il me garde pendant 2 heures et demie. Et je lui montre des dessins, et alors, justement, la couverture, je l'avais déjà en tête, 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter avec un gars qui est en train d'essayer d'appuyer sur le bouton, avec une petite colombe qui essaye de couper les fils, quand même.
Et qui a autour de lui, une ceinture de dynamite,
voilà.
En fait. Voilà.
Ouais. Et je me dis, mais quand il va voir le dessin, il va peut-être me foutre dehors, je sais pas. Il a accueilli tous les dessins. Tous les dessins, et il a même réagi, et je me suis rendu compte.
Il dit que les premières victimes, pardon de vous interrompre, du terrorisme, ce sont les musulmans, c'est ça?
Et je le dis dans mes dessins, depuis des années. C'est que, où, par exemple, on pense à la terrible tragédie du 14 juillet à Nice. Un tiers des personnes qui ont été tuées sont musulmanes. Donc il faut le dire et le redire. Et puis quand il me dit, vous savez, à chaque fois que j'entends qu'il y a un attentat au couteau, à la Kalachnikov, je me dis, pourvu que ce soit encore pas un musulman. Et il a le cœur déchiré à chaque fois. Et alors, on ne se rend pas compte à quel point il est... Alors, à chaque fois, on me dit, oui, mais il représente quoi? Eh bien, il représente quand même 30% des mosquées de France. Alors, on va me dire, c'est pas assez, mais c'est un lanceur d'alerte. Ça fait 20 ans qu'il dit, les wahhabistes, l'Arabie Saoudite, essayent d'installer à Genève. Il balance il raconte des choses incroyables dans ce bouquin où il nous dit, j'ai alerté, on ne m'a pas écouté.
Plantu, vous alertez aussi d'une réalité dans les écoles. C'est important. C'est-à-dire que vous parliez des intellectuels, des commentateurs, parfois aussi dans les médias, qui ont des grandes théories, qui parlent de statistiques, mais la réalité, le quotidien d'un prof dans une école avec des élèves qui ont une confession musulmane ou juive est totalement dans une autre réalité. On ne parle pas la même langue, en fait, sur le terrain. C'est ça que vous nous dites.
C'est exactement. Merci, Nikos, parce que c'est vraiment ce que je ressens tout le temps. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans le sud de la France, dans un lycée professionnel, et il y en a un qui est un petit jeune. « Ouais, monsieur, je peux poser une question ?» Et tous les autres disent « Non, non, lui, c'est le feuge. » Alors, je dis « Quoi, c'est le feuge ?» Donc, après, je vais voir les profs, je dis « Pourquoi il n'a pas pu poser ?» Il est juif, c'est quoi? C'est ça ?» Ah non, non, il n'est pas juif, mais c'est parce qu'il ne l'aime pas. Alors, il l'appelle le juif.
D'accord.
Donc, je me dis
« Est-ce que c'est encore solvable, cette histoire? Est-ce qu'on peut encore... espérer mettre les présupposés de côté ?»
Sinon, je le ferai pas. Je le fais comme si j'allais réussir. Alors évidemment, nous on n'est rien, nous on n'est que des dessinateurs. Avec des, l'autre jour, on était avec une école juive, une école israélienne, une école marocaine. C'était à Paris, à la Fondation Jean Jaurès, avec Cartooning for Peace, avec des dessinateurs qui vont et dans les écoles et dans les prisons pour essayer de renouer, de faire des ponts.
Tout déjà, à l'heure, le dialogue.
Mais oui.
Tout à l'heure, pardon.
Tout à l'heure, vous parliez avec Jean-Michel Apathy de notre président qui était sur le pont. Et je me dis qu'il est sur le pont d'un bateau, évidemment. Ouais. Et je me dis, tiens, j'ai peut-être un truc à faire sur le pont.
Pour le dessin du monde aujourd'hui?
Ben, je sais pas.
Vous le rendez à quelle heure, le dessin?
Je vais le faire dans votre bureau, si vous voulez bien.
Ah oui.
Tout à l'heure. Parce que
on peut le filmer, on peut partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1. On a le droit ou pas?
Oui, vous avez le droit, mais vous allez voir, je suis pas beau à voir, hein, parce que quand je cherche mes idées de dessin, oh là là, je suis terriblement angoissé parce que on est à quel étage? On est au premier étage,
oui,
là?
Oui, bon, absolument. Parce oui, que François 1er, encore.
Eh ben, donc ça suffira pas, parce que j'aime bien l'idée de me dire, tiens, je pourrais me foutre par la fenêtre.
Non,
du premier étage, je risque de rebondir, ce que je fais quand même depuis pas mal de temps, quand même.
Il n'y a pas de souci d'ici, ici, on renaît, vous le savez. Plantu, vous faites un travail considérable, parce qu'un simple dessin, entre guillemets, peut faire réfléchir, sourire et changer les mentalités. 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter aux éditions du Seuil, ça sort aujourd'hui. Merci d'être passé nous voir, on a hâte de partager votre dessin tout à l'heure avec nos auditeurs.
Moi aussi,
sur les réseaux sociaux.
Je vous reviens, c'est ce que je vais prendre.
Vous allez trouver quelque chose, j'en suis sûr.
Europe 1, il est 7h54.
À suivre, le Zoom Echo, le loyer, les assurances, l'abonnement au téléphone ou au club de gym. Voilà ce qui plombe notre pouvoir d'achat. C'est ce que nous dira Axel de Tarlé. Et puis ne manquez pas, dès le début du journal de 8h, ce reportage à Vitré, en Ille-et-Vilaine, où certains gilets jaunes, par peur des représailles judiciaires, ont tout simplement décidé d'abandonner le combat. On vous dit tout sur Europe 1 juste après ça.
Il est 7h57, l'heure du Zoom.
Zoom-Echo, Nicolas Aliagas avec Axel de Tarly.
Le gouvernement annonce de nouvelles mesures pour aider les Français face à l'envolée des prix du carburant. Emmanuel Macron a-t-il perdu la bataille du pouvoir d'achat, Axel de Tarly?
Oui, alors pourtant, à en croire les chiffres de l'INSEE, le pouvoir d'achat augmente en France. On a du mal à le croire, mais c'est plus 1,3% cette année. Et le carburant ne représente, on a du mal à le croire aussi, ne représente jamais que 3% du budget des ménages. Et pourtant, c'est vrai, on a l'impression d'avoir un budget de plus en plus restreint, de plus en plus contraint. Eh bien, Nikos, j'ai trouvé le coupable et je voulais apporter ce coupable qui mange notre budget, c'est le prélèvement automatique. Vous voyez, je vous ai apporté là.
Pointez-le du doigt,
le mandat de prélèvement. Ce prélèvement automatique est en train de siphonner tous les revenus des Français. Ils ont explosé ces dernières années. Je vais vous en donner quelques exemples. L'abonnement au téléphone portable, l'abonnement à Internet, l'abonnement à la télévision, ce sont de nouvelles dépenses. Vous avez aussi tout ce qui est assurance et mutuelle. Les budgets ont fortement progressé. Le loyer, le crédit immobilier, on sait que les prix immobiliers ont doublé, voire triplé ces 20 dernières années. Et puis, il y a les traditionnelles factures, eau, gaz, électricité. Écoutez, mis bout à bout, toutes ces dépenses contraintes, ce sont les chiffres de l'INSEE, absorbent désormais 30% du budget des ménages. Dans les années 60, c'était 15% du budget des ménages. Deux fois moins. Et si vous regardez les ménages les plus modestes, les familles monoparentales, où il n'y a qu'un seul revenu pour payer toutes ces factures, eh bien ces dépenses contraintes mangent, toujours selon l'INSEE, désormais près de la moitié du salaire. Si bien que le reste à vivre, comme on dit, est extrêmement restreint. Pour les 20% des Français les plus modestes, le reste à vivre est de moins de 400 euros par mois. Donc évidemment, c'est éruptif. Toute hausse du prix de l'essence vient rogner un peu plus ce tout petit reste à vivre.
Merci Axel de Tarly. C'est tous les jours sur notre antenne, le Zoom Echo.
Et il est 7h59, l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Jean-Philippe Ballas, ce matin, vous savez quoi? Vous nous racontez la joie toute simple de deux enfants au Canada.
Et vous les entendez derrière moi, une fille, un garçon, le petit frère, la grande sœur, ils ont 5 et 7 ans et vous les voyez absolument hilares dans la cour d'une maison à Toronto. Ils sautent à pieds joints, ils font la toupie, surtout ils regardent vers le ciel parce qu'il neige. Bon, vous me direz de la neige au Canada au mois de novembre.
Oui, c'est pas...
C'est assez classique. Oui, mais ces gamins, c'est la toute première fois qu'ils en voient de la neige. Ils ne sont pas d'ici. Ils débarquent d'un camp de réfugiés au Soudan. Ils viennent de passer de longues années là-bas après avoir fui l'Érythrée, ce petit bout de terre tourmenté dans la corne de l'Afrique. Et donc les voici soudain sur un autre continent, dans une famille d'accueil, emmitouflés pour oublier la violence des adultes et choper des flocons sur le bout de la langue. La scène que je vous raconte a été filmée, postée et relayée par le Premier ministre du Canada en personne, Justin Trudeau. Il a ajouté ce commentaire pour cette famille d'accueil. Bon, reste plus qu'à les convaincre que pelleter la neige, c'est tout aussi drôle et ce sera parfait. Et vous savez quoi? Quand on les voit rigoler comme ça, on se dit qu'un enfant, même déraciné, c'est une petite leçon de résistance.
Jean-Philippe Ballas, la petite histoire qui nous touche. Les enfants qui viennent d'ailleurs sont aussi nos enfants, d'une façon ou d'une autre. C'est tous les jours, vous savez quoi? Juste avant 8h.
La météo avec Rénoval, le réseau national de véranda et abri de piscine.
Et la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Monsieur Cabrol, avec beaucoup de brouillard aujourd'hui, hein. Je crois que c'est le mot du jour, avec des températures cet après-midi qui vont s'échouer. Oui, qui vont s'échetonner cet après-midi entre 10 et 20 degrés, 12 à Paris, 14 à Lille, 16 à Lyon, 18 à Caen, 19 à Toulouse, donc c'est encore la douceur, il faut en profiter. Alors quel temps ferait-il chez vous? Eh bien, sur le nord, la Picardie, l'Île-de-France et l'Alsace, les brumes seront tenaces. Sur les Cévennes et le Midi-Pyrénées, comme sur le Limousin, nous aurons quelques gouttes de pluie, notamment dans le golfe du Lyon. Et puis ailleurs, Bretagne, Poitou-Charentes, Aquitaine, Côte d'Or, Berry, on peut parler de soleil, puisque le soleil va se pointer, ne va pas pointer tout court, le bout de ses rayons. Voilà, à tout à l'heure.
Merci, à tout à l'heure, mon cher Laurent Cabrol.
Et merci d'être sur Europe 1 ce jeudi 15 novembre. Il est 8h01. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Si vous êtes en voiture, dans les transports en commun, on vous accompagne jusqu'à 9h. Voici le journal de 8h, présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Trois titres à la une ce matin.
Et si les mises en garde du gouvernement portaient leurs fruits? S'ils se mettent hors la loi samedi, les gilets jaunes seront sanctionnés et la peur du gendarme semble fonctionner. Reportage dès le début de ce journal. Et puis, il y a un homme dont le silence est étonnant. Nicolas Hulot est totalement absent depuis le début de la crise. Que pense-t-il de la fronde et des va-et-vient du gouvernement? Les informations d'Ève Roger dans un instant. La terrible affaire de pédophilie dans la Nièvre, des sévices présumés sur 4 petits garçons pendant des années. Comment se fait-il que l'alerte n'ait pas été donnée plus tôt?
Europe 1.
Emmanuel Macron entend la colère des Gilets jaunes, mais attention, pas question pour l'État de faire montre de la moindre indulgence. Les actions illégales, comme les blocages par exemple, seront sanctionnées. Le président a répété hier soir sur TF1 ce qu'avait déjà dit son ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Je vous rappelle qu'une manifestation non déclarée est punie de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. L'entrave à la circulation, c'est 2 ans de prison et 4500 euros d'amende. Voilà qui suffit à en décourager certains. Exemple, à Vitré, en Ille-et-Vilaine, les Gilets jaunes voulaient bloquer un péage. Eh bien, ils ont d'ores et déjà renoncé. Reportage François Coulon.
Ils étaient une vingtaine à faire les repérages ici aux barrières autoroutières de la Gravelle. La semaine passée, au programme, un grand blocage du péage, suivi d'une opération escargot avant de paralyser 3 ronds-points de Vitré. Mais les menaces du ministre de l'Intérieur ont fait mouche. En quelques jours, ils se sont tous dégonflés. Marcel Lacour, le patron des Gilets jaunes vitréens.
Vous savez, quand on voit Castaner parler, c'est un gars qui fait peur. Ils accepteraient aucun blocage, ça veut dire verbalisation, retrait des permis de conduire. Les gens se sont dit, nous on prend pas le risque. C'est la peur du gendarme quoi. On avait pratiquement plus personne dans le bureau. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, on arrête. Moi je vais pas m'amuser à 70 ans faire quelque chose avec une ou deux personnes.
Vous avez peur vous-même ?
Moi j'en ai pas peur, j'ai fait 68. À 70 ans, je m'en fous. Je m'en fous complètement.
C'est cette même peur des représailles qui a conduit hier les chefs des Gilets jaunes de Dinan, Saint-Malo et Châteaubriant à jeter l'éponge. Vitré, François Coulon, Europe 1.
Et dans son interview, Emmanuel Macron s'est aussi acquitté d'un mea culpa. Il a admis ne pas avoir réussi à réconcilier les Français et leurs dirigeants. Le président a également répondu aux tweets incendiaires de Donald Trump. Entre alliés, on se doit le respect, a lancé Emmanuel Macron.
Cela fait maintenant presque 3 semaines que le débat fait rage. Taxer les carburants pour favoriser la transition écologique. Et il y a une voix qu'on n'entend pas, ou qu'on n'a pas du tout entendue, c'est celle de Nicolas Hulot.
Oui, l'ancien ministre pousse pourtant la taxation du diesel depuis plus de 10 ans. Et c'est vrai qu'il est muet depuis le début de la crise. On aimerait pourtant savoir ce qu'il pense de la révolte des Gilets jaunes ou des mesures annoncées hier par le gouvernement. Europe 1 a enquêté sur cet étonnant silence. Information signée Ève Roger.
N'espérez pas entendre le son de sa voix d'ici samedi. Nicolas Hulot ne bougera pas, affirme l'un de ses proches, ni pour soutenir le gouvernement, pourtant droit dans ses bottes sur la fiscalité écologique, ni pour le critiquer, manquerait plus que ça. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il ne jette pas la pierre aux Gilets jaunes, il les comprend, il va même jusqu'à dire qu'ils incarnent toutes nos contradictions. On peut très bien marcher pour le climat et ne pas vouloir se passer de sa voiture. Alors Nicolas Hulot attend. Le 22 novembre, jeudi prochain, retour dans l'arène, dans l'émission politique sur France 2, c'est là qu'il devrait dévoiler son jeu. Un de ses proches confie. Nicolas réfléchit à un appel ou une sorte de nouveau pacte écologique, ce qu'il avait fait signer au candidat à la présidentielle de 2007. En tout cas, quelque chose de créatif dont pourraient s'emparer des candidats aux européennes. D'ailleurs, la semaine prochaine, il a rendez-vous avec Raphaël Glucksmann, le jeune fondateur du nouveau parti, place publique au programme très Hulot-compatible. Alors d'ici le 22 novembre, sa voix retentira bien, mais au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, à l'occasion d'un dîner de gala, une levée de fonds en faveur des grands singes, une espèce en voie de disparition.
Les informations d'Ève Roger pour Europe 1.
Et on demandera à l'invité d'Europe 1 à 8h15 ce qu'il pense de tout cela. Audrey Crespo-Mara reçoit la tête de liste écolo pour les européennes, Yannick Jadot.
Peut-être sera-t-il aussi inspiré par le nouveau projet d'Anne Hidalgo. La maire de Paris envisage de piétonniser tout le centre historique de la capitale. Son entourage précise que c'est une idée destinée à la prochaine mandature. Anne Hidalgo fera donc campagne là-dessus.
Europe 1, il est 8h06.
On va revenir maintenant, mon cher David, sur cette terrible affaire de pédophilie dans la Nièvre.
Oui, je vous rappelle que 8 adultes, 5 hommes et 3 femmes, sont mis en examen pour viol et agression sexuelle. Les victimes présumées sont 4 petits garçons âgés de 4 à 9 ans. Leurs propres parents font partie des suspects. Les gendarmes enquêtent sur des sévices pratiqués pendant des années. Alors, dans le petit village de Châtillon en Bazois, les habitants oscillent entre culpabilité et indignation. Comment ont-ils pu eux-mêmes passer à côté d'un tel drame? Comment se fait-il que les services sociaux n'aient pas réagi plus vite? Reportage sur place, signé Jeanne Bergaoui.
Les soupçons de maltraitance alimentaient la conversation des habitants de ce petit village. Des soupçons
À l'école aussi, se souvient cette ancienne institutrice qui a suivi l'un des 4 enfants victimes d'abus.
Il était en t-shirt en hiver, il avait toujours faim, il avait des accès de violence. On s'est questionné sur l'environnement familial.
Après concertation, l'enfant est finalement signalé, retiré à la garde des parents. De son côté, la mairie assure que ces familles dites à problème étaient bien dans le radar des services sociaux. Alors comment ont-ils pu passer à côté du calvaire de ces garçons, déplore Marilyn, qui avait signalé la violence d'un des hommes mis en examen.
Je ne comprends pas qu'avec tous les services sociaux qu'il y ait eu, tout l'entourage qu'il y avait chez eux, qu'on ne se soit pas aperçu plus tôt pour protéger ses enfants. Pour moi, c'est ça le drame.
Un drame hors norme face à la durée des faits, mais aussi au nombre d'infractions, plus de 70. Certains reconnaissent du bout des lèvres qu'ils auraient peut-être dû mieux donner l'alerte. Châtillon en Bazois, Jeanne Bergaoui, Europe 1.
Europe 1.
À suivre dans le journal, verdict attendu aujourd'hui pour Georges Tron. Le procureur a requis 6 années de prison. A tout de suite.
Il est 8h09, votre matinale info, Nicolas Saliagas.
La suite du journal avec vous, David Doucan. Le procès de Georges Tron se termine aujourd'hui.
Oui, les jurés vont rendre leur verdict. L'avocat général a requis 6 ans de prison contre le maire de Draveil, 4 ans contre son ex-adjointe Brigitte Gruel. Je vous rappelle qu'ils sont accusés de viol et d'agression sexuelle sur 2 anciennes employées de mairie. Les avocats de la défense ont quant à eux hier plaidé l'acquittement. Guillaume Bier.
La salle des assises est archi-comble pour entendre Éric Dupond-Moretti plaider l'acquittement de Georges Tron. Juste avant lui, son associé Antoine Vey a méthodiquement démonté un dossier vide, aucun indice matériel, dit-il. Entre en scène le ténor qui régale le public en distribuant les mauvais points. Contre l'avocat général, au réquisitoire selon lui, mielleux, démagogue, narcissique. Contre la presse, accusé d'avoir, je cite, « crevé Georges Tron dès les premières minutes du procès ». Et puis contre les plaignantes, à Eva Loubrieux qui a reconnu s'être laissé caresser c'est le pied dans la promesse d'être embauché, il assène. Ben tant pis pour vous. À propos de Virginie Faux, qui a elle-même abordé la réflexologie à son premier déjeuner avec Georges Tron, Dupond-Moretti balance « Elle y va pour le pécho ». Rire dans la salle. Au juré, il explique « Si votre employeur vous prend le pied et que ça ne vous plaît pas, vous l'enlevez, c'est aussi simple que ça ». Bref, pour l'avocat, personne ne peut affirmer que la parole des plaignantes est cohérente, insiste-t-il. On est chez les dingos. Et il conclut avoir la conviction que Georges Tron c'est un type bien.
Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1.
Emmanuel Macron est aujourd'hui en déplacement au Maroc.
Oui, il inaugure avec le roi Mohamed VI le nouveau TGV qui va relier Tanger à Casablanca. C'est la toute première ligne à grande vitesse sur le continent africain. Elle a été financée à moitié par la France. Les précisions de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Casablanca, Théo Manval.
Ce nouveau train rouge et blanc va filer à plus de 320 km/h sur les 200 km qui séparent Tanger de Casablanca. C'est du jamais vu sur le continent africain et l'aboutissement d'un projet titanesque. 2 milliards d'euros financés à moitié par la France. Les entreprises tricolores sont en première ligne, Vinci, SNCF ou Alstom qui fournit les 12 rames. Le temps de trajet entre les deux métropoles marocaines va être divisé par 2h10 au lieu de 5. Jawad travaille dans l'import-export.
Tanger, c'est la porte de l'Europe. Il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent avec la LGV. Quand tu gagnes le temps, tu peux faire plus de réunions, plus de rendez-vous. Il va apporter beaucoup de choses.
Mais le projet n'est pas sans polémique. 3 ans de retard et surtout un coût qui suscite la colère d'une partie de la population qui regrette de voir ces milliards investis sur une seule ligne alors que le reste du réseau connaît beaucoup d'accidents. Le dernier, il y a un mois, rappellent ses habitantes.
Le train a déraillé et donc il y a eu
16 victimes.
Oui, 7 morts, 120 blessés.
Ça m'a mis en colère.
Il y a des priorités. Améliorer avant les rails des trains qui existent.
Mais les autorités marocaines comptent bien sur leur nouveau fleuron pour conquérir 8 millions de passagers par an. À Casablanca, Théo Manval, Europe 1.
Le journal de 8h était présenté par David Doucan. Bonne journée à tous.
Bonne journée.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
8h12, coup d'œil à l'international avec Vincent Hervouet, Nikos.
Apparemment, ça s'accélère, Vincent. Les Britanniques font un pas de plus vers la sortie.
Le premier pas, c'était le référendum. Le peuple a dit goodbye. C'était l'été 2016 comme un vertige. Après le peuple, le gouvernement. Hier, il a entériné l'accord laborieusement négocié avec Bruxelles. Theresa May a dit « c'est ce deal ou le chaos ». Les ministres ont cédé. C'est le deuxième pas. Le divorce sans joie, c'est l'automne. Il reste au Parlement à se prononcer. Alors, on voit pas très bien quelle majorité pourrait voter le texte à la Chambre des communes. Il fait 585 pages. Encore plus atroce à résumer que la règle du jeu au cricket, et sans avoir lu une seule page, Les députés travaillistes sont contre, comme la moitié des conservateurs, les loyalistes d'Irlande du Nord aussi, sans oublier les indépendantistes écossais. C'est le troisième pas, celui qui coûtera le plus, le dernier pas, et ce sera à Noël, l'hiver sur l'Europe. Filer à l'anglaise n'est vraiment pas une partie de plaisir. Theresa May a dit hier soir que l'accord est conforme au vote des Britanniques qui veulent reprendre le contrôle de leur argent, de leurs lois, de leurs frontières. Et elle était dans la rue, devant chez elle, alors que le vent balayait les feuilles mortes. Elle aurait été mieux à sa place, au large, sur le pont d'un de ces deux porte-avions. Car l'un des ressorts du Brexit, c'est l'hostilité viscérale des Britanniques à toute idée de défense européenne.
Et c'est la seule puissance militaire en Europe avec la France.
Alors l'armée britannique est la seule que les militaires français reconnaissent. Elle s'est usée en Irak, mais elle se reconstitue. On respecte l'ennemi héréditaire. Les Brits ne partagent pas le pacifisme, la mauvaise conscience, le refus de la violence qui sont dans les gènes de l'Union européenne. Sauf que la coopération militaire avec Londres, c'est 20 ans d'illusions déçues. Les accords de Saint-Malo, ceux de Lancaster House, ont fini comme le porte-avions franco-britannique, le pilier européen de l'OTAN, la force d'intervention rapide, l'état-major européen, des chimères de papier. Hier soir, sur le Charles de Gaulle, Emmanuel Macron vantait l'armée européenne au moment précis où désertaient les seuls avec lesquels faire exister cette utopie.
Vincent Herouette sur Europa.
Europe 1, il est 8h14.
Dans deux minutes, l'interview politique avec vous, Audrey Crespo-Mara, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Qui recevez-vous ?
Eh bien écoutez, il est pour la taxe carbone, mais il comprend la grogne des Français aux gilets jaunes. Où sera-t-il samedi ? En tout cas ce matin, il est avec nous. Yannick Jadot, député européen et tête de liste Europe Écologie Les Verts aux Européennes, sera mon invité.
A tout de suite.
Il est 8h17, Nikos Aliagas.
Le député européen Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot est votre invité, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Yannick Jadot.
Bonjour.
Et tête de liste pour les Européennes, on en parlera. Alors il est 8h15 et à cette heure-là, une partie de nos auditeurs sont au volant parce qu'ils partent travailler. Pour calmer la colère de certains d'entre eux, l'État a décidé de mettre 500 millions d'euros sur la table, 500 millions de primes. Pour tous les autres, ce sera 4 milliards d'impôts verts en plus l'année prochaine. 4 milliards, c'est difficile de leur demander d'être plus écolo, non ?
C'est surtout difficile de leur demander d'être plus écolo quand ces 4 milliards ne leur sont pas rendus. Nicolas Hulot avait insisté pour que l'intitulé de son ministère ce soit le ministère de la transition écologique et solidaire. Et ce qu'on voit malheureusement depuis des semaines, depuis des mois, c'est que cette transition écologique telle qu'elle est menée par le gouvernement n'est pas solidaire.
Mais qu'est-ce que vous entendez par là ? Parce que je vous entends dire il faut rendre l'argent aux Français. Mais comment ça rendre l'argent aux Français ?
Pour les accompagner ?
Oui, mais vous reprochez en gros à l'État d'utiliser cet argent des impôts à des fins personnelles ? Enfin, ils s'en servent de cet argent ?
Bien sûr que l'État s'en sert, mais les premiers signaux qui ont été envoyés par ce gouvernement, c'est la suppression de l'ISF. C'est de dire finalement, on va baisser les impôts des très très riches. À partir du moment où vous commencez votre quinquennat comme ça, il y a un sentiment profond d'injustice fiscale, d'injustice sociale dans ce pays. Et donc le consentement à l'impôt devient de plus en plus faible. Si ce que demandent les écologistes depuis tellement d'années, parce que nous sommes favorables à la fiscalité écologique, nous sommes favorables à la sortie des énergies fossiles, nous sommes favorables à la fin du diesel qui tue près de 10 000 personnes dans notre pays chaque année. Donc, mais pour en sortir, la base, le fondement, c'est que chaque euro collecté soit rendu aux Français pour les accompagner. Prenons deux exemples. Vous parlez de... On est à 8h15 ce matin. Vous avez une ligne entre Firminy et Saint-Étienne qui a été mise en place, une ligne de train électrifiée toutes les 15 minutes. Aujourd'hui, ceux qui vont travailler à Saint-Étienne peuvent déposer leur voiture au parking de Firminy, prendre un train qui fonctionne très bien. À l'inverse, une autre ligne de train, celle qui va de Caen à Tours, Parlement. Normalement, elle fonctionne à 120 km/h. C'est une ligne qui fonctionne pour ceux qui vont travailler. Aujourd'hui, elle est tellement délaissée qu'elle va à 80 km/h et elle pourrait fermer. Voilà ce à quoi doit servir la fiscalité écologique. Offrir des moyens de se transporter qui sont pas chers et qui sont peu polluants.
Yannick Jadot, pour y voir clair, vous comprenez la grogne des automobilistes, mais quand même pas au point de mettre un gilet jaune et de bloquer l'une des routes près de chez vous samedi, c'est ça ?
L'honneur de la politique, la responsabilité de la politique, ça n'est pas de souffler sur les braises, ce n'est pas d'attiser la colère, c'est d'y répondre.
Oui, mais
et moi,
alors,
tous
clairement,
ces responsables
clairement, vous
politiques...
êtes tout, parce que vous avez d'un
ah,
côté...
Ah mais moi, c'est très clair,
attendez.
Je ne manifesterai pas le 17.
D'accord, parce que vous avez d'un côté les Gilets jaunes, de l'autre, en réaction, vous avez des Français qui, par exemple, ont lancé un mouvement sans moi le 17 novembre, en soulignant le côté déplacé de cette manifestation face aux enjeux écologiques. Donc vous vous situez où, entre les deux?
Je me situe pour défendre l'idée de sortir du pétrole, de sortir du diesel, et notamment par la fiscalité écologique.
Mais le gouvernement dirait la même chose.
Je me situe aussi du côté de ceux qui disent chaque euro collecté doit être rendu. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Les Français se sentent délaissés. Vous vous rendez compte? Pourquoi est-ce que finalement les Français sont autant en colère? Parce que quand ils prennent aujourd'hui, quand ils veulent, dans certaines zones, acheter une baguette de pain, il faut faire 10 kilomètres. Il faut faire 20 kilomètres pour aller voir un médecin. Il n'y a plus de service public. Les personnes se sentent dans la diagonale du vide.
Donc je vais prendre juste les deux mesures du gouvernement.
Ce que ne fait pas Emmanuel Macron, c'est de replacer un projet global qui permette de remettre des commerces dans les centres-villes et non pas simplement les hypermarchés dans les banlieues ou dans les zones rurales.
Ce qu'il fait, vous le réclamiez, c'est que la prime à la conversion pour l'achat de véhicules plus propres passe de 2 000 à 4 000 euros. Ça a été annoncé. Une augmentation du chèque énergie, vous la vouliez, elle arrive. Donc
sauf
finalement,
là,
ça va dans le bon
là,
sens.
Là, aujourd'hui, l'idée de l'augmentation du chèque énergie, c'est de 50 euros.
Ah, c'est pas assez,
c'est 150 euros pour 4 millions de Français. Moi, je veux que ce soit 600 euros pour 6 millions de Français.
Il n'y a plus d'argent. Vous avez
mais
vu,
non,
l'État, il y a eu 300 milliards d'euros d'impôts collectés par l'État cette année. L'État n'a plus un euro dans les caisses à partir d'aujourd'hui, jeudi 15 novembre.
Plus 4 milliards de fiscalité écologique en plus l'année prochaine. Et ben moi je veux que cet argent-là serve aux Français. Mais il y a un acteur qu'on a totalement ignoré aujourd'hui dans ce problème. C'est les constructeurs automobiles. Vous avez aujourd'hui 8 millions de véhicules diesel qui tournent en infraction. 2 millions chez Peugeot, 2 millions chez Renault. Qui ne sont pas aux normes, mais qui sont vendus quand même. En Allemagne, le gouvernement...
Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez Emmanuel Macron?
J'imposerais aux constructeurs automobiles de rappeler les véhicules pour les recalibrer, pour les corriger. C'est moins de pollution, moins de consommation. C'est ce que fait le gouvernement allemand, c'est ce que n'a pas le courage de faire le gouvernement français.
Et Yannick Jadot, vous avez décidé d'être tête de liste écologiste aux européennes.
Oui.
Dans votre premier discours, vous avez dit...
Ce sont les militants écologistes qui l'ont décidé.
D'Europe Écologie Les Verts. Vous avez dit dans votre premier discours, le néolibéralisme comme horizon, l'austérité comme solution, la technocratie comme méthode ont rendu notre union inefficace et nos institutions détestables. Du coup, vous comprenez le choix des Anglais. Hier soir, le gouvernement britannique a donné son aval au projet d'accord de Brexit de Theresa May.
Certainement pas. Et j'imagine mal...
C'est l'État de l'Europe qui les incite à faire ça et vous partagez ce constat.
Bien sûr, on n'a pas de réponse. On n'a pas apporté de réponse aux Britanniques comme on n'a pas apporté de réponse aux Italiens, ce qui font qu'ils ont voté pour l'extrême droite. Moi, je ne veux pas une Europe de la technocratie et de l'austérité. Je veux une Europe, justement, qui ouvre une nouvelle page. Quand vous luttez contre le dérèglement climatique, pour la protection de la santé ou pour la protection de la biodiversité, vous créez des emplois dans toutes les zones rurales qui se sentent aujourd'hui oubliées. Vous créez des emplois dans tous les quartiers, vous créez des emplois dans tous les centres-villes. Vous offrez un horizon à notre jeunesse. Vous rendez
le
compte
Brexit,
que
c'est un autre horizon pour les Anglais.
Comment ils vont regarder leurs enfants dans les yeux en disant « Je t'ai fermé les portes du continent, j'ai bouché ton horizon sur le monde ». Et aujourd'hui, finalement, ce qui se passe en Grande-Bretagne, c'est qu'ils vont être faussement dans l'Union européenne, ils vont adopter toutes les règles de l'Union européenne sans participer à la décision. Si c'est ça la souveraineté nationale, c'est nul.
C'est nul. Bah, c'est leur choix en tout cas. Je le disais, vous serez tête de liste Europe Écologie Les Verts aux européennes. Vous y allez en solo, pas d'union de gauche en vue. Est-ce qu'en privilégiant le choix des adhérents d'y aller en solo, vous ne diminuez pas vos chances d'atteindre les 10%? Vous êtes à 7% dans les sondages aujourd'hui. Eva Joly avait été choisie aussi par les adhérents. On se rappelle, elle était à 2,3% contre Nicolas Hulot.
On a parlé de l'état de l'Union européenne qui est en train d'être gangréné par toutes les extrêmes droites. Est-ce que le sujet, c'est la recomposition de la gauche en France? Non. Le sujet aujourd'hui, c'est de sauver l'Union européenne. Face à Trump, face à Poutine, face aux Chinois, c'est de sauver l'Union européenne.
Et d'avoir du poids
en face. Et de sauver l'Union européenne pour offrir un avenir à notre jeunesse, pour offrir la santé, pour offrir l'environnement. Tout le monde sait que c'est l'échelon européen qui est indispensable pour ce futur qui sera bienveillant et un futur de paix. On en a tellement besoin.
Merci Yannick Jadot.
C'était l'interview politique avec Audrey Crespo-Maras. C'est tous les jours à 8h15 sur Europe 1.
Europe 1, il est 8h25.
À suivre la revue de presse de David Abiker, Macron et les Français, l'Angleterre et l'Europe. Et à la une de la presse ce matin, des divorces. Et Nicolas Canteloup arrive à 8h45. Il est remonté comme un coucou, tout va bien. À tout de suite.
Dans un instant, la revue de presse de David Abiker.
La météo avec Rénoval, le réseau national de véranda et abris de piscine.
Et avec Laurent Cabrol, Nikos.
Il fera doux aujourd'hui, Laurent Cabrol, ou
pas? Il fait assez doux sur une grande partie de la France, la partie essentiellement sud. Nantes, Clermont-Ferrand, Toulouse, Bordeaux, Marseille, Biarritz, entre 18 et 20 degrés. Ce sont presque les températures de début de printemps. Alors que dans l'Est, 7 à Strasbourg, 8 à Nancy, là c'est un début d'automne. Bon, enfin bref, de toute manière, ce sont des températures encore très douces par rapport à ce que nous allons vivre la semaine prochaine, puisqu'il se confirme que, bien sûr, la semaine prochaine, les températures vont plonger. Et à ce sujet, la dernière tendance en matière de prévision saisonnière laisse entendre que l'hiver 2018-2019 pourrait être un hiver assez froid. Voilà, ça c'est la première indication que je vous donne, avec des pincettes bien sûr, avec toutes les précautions qui s'imposent. À suivre, comme vous dites. En ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, eh bien, ce sont des brumes, des brouillards qui vont se disperser de manière aléatoire, comme hier, mais dans l'ensemble quand même, le soleil sera assez présent sur la plupart des régions, excepté sur la Picardie, le Nord et la Champagne des Ardennes, excepté dans le Golfe du Lion. Voilà.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Juste avant 9h, à suivre dans la prochaine demi-heure, Nikos.
Eh bien, juste après la revue de presse de David Abiker, qui est déjà installé dans le studio, c'est votre journée. Coup de fil ce matin, Liane Folly, qui publie un livre avec notre amie Wendy Bouchard, Nos femmes de cœur. On va parler des femmes et de ce qu'elles laissent dans la société, de ce qu'elles provoquent dans nos cœurs. 8h40, l'imitateur en chef, l'imitateur de notre cœur aussi, Nicolas Canteloup arrive. Si vous partez travailler, on vous accompagne jusqu'à 9h.
Nous sommes le jeudi 15 novembre et il est 8h30.
7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1.
On retrouve David Abiker pour sa revue de presse, Nikos.
Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour Céline.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Dans la presse de ce matin, des divorces en pagaille, mais avant ça, deux journaux qui disent aux Français leurs contradictions. À la une du Parisien aujourd'hui en France, il est question des aides auxquelles ils ont droit pour leur voiture, leur chaudière, leur carburant, les aides, les dépenses. Mais en une de l'Opinion, eh bien, il y a un avertissement adressé à la famille France, dépensière. Le 15 du mois, les caisses sont vides. En clair, toutes les dépenses de l'État sont payées désormais à crédit jusqu'au 31 décembre et les Français qui roulent à crédit ne le savent que trop. L'argent, c'est souvent la cause d'un divorce dans un couple, comme entre un gouvernement et l'opinion publique. Et le président l'a dit hier, il n'a pas réussi à réconcilier les Français et leurs dirigeants. Il a même parlé de divorce dans les démocraties occidentales. Et c'est bien de cela dont il est question dans la presse ce matin, de divorce, des divorces en pagaille.
Ne me quitte pas.
Et c'est vrai qu'hier soir, Emmanuel Macron s'est exprimé comme s'il parlait d'une mésentente au sein du couple France.
Et comme souvent, il faut trouver les mots quand ça va mal, les mots pour le dire. Le Parisien aujourd'hui en France revient ce matin sur l'autocritique et le vocabulaire présidentiel qui relève non plus de la méthode Coué, mais de la thérapie conjugale. C'est ce que je dirais, considération, protection et solution. Voilà ces mots hier soir, ou comment la réconciliation entre la base et le sommet passe par l'écoute pour retisser un lien. Toujours les mots du président, comme les liens du mariage. Un lien avec les Français. Une façon de faire que ne saurait désavouer Brigitte Macron cette semaine. À la une de l'Express, le magazine revient sur le rôle de Bibi, c'est son surnom, auprès du président. C'est la seule à lui parler cash, à lui dire qu'il a dit une connerie, à ne pas applaudir un discours s'il n'est pas bon. Elle encourage l'entourage à lui parler, mais attention, elle ne veut pas passer ses soirées à lui faire des reproches. On est toujours dans l'ambiance du mariage, du divorce. Brigitte Macron est peut-être celle qui a vu arriver de loin ce ressentiment du peuple d'en bas envers le sommet. Et pas besoin du sondage que publie ce matin La Croix sur le sentiment démocratique en France et en Europe et qui ne dit pas autre chose. Pour 61% des Français, la démocratie fonctionne mal et ce ne sont pas les Marseillais qui diront le contraire. Gaudin au bord du chaos, titre la Marseillaise ce matin. Gaudin à qui même la droite marseillaise tourne le dos, nous explique Le Monde. Gaudin qui n'a pas su trouver les mots, lui aussi, pour parler aux Marseillais qui eux aussi demandent le divorce en scandant hier démission, démission.
David Abiker, d'autres divorces dans l'actualité ce matin.
Et d'abord un divorce à l'anglaise, à la une du Figaro. Figaro où Patrick Saint-Paul éditorialise sur la difficile séparation entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Theresa May, écrit-il, a su obtenir une séparation en douceur. Mais justement, les partisans d'un Brexit dur estiment qu'elle a fait trop de concessions, tandis que ceux du maintien dans l'Europe dénoncent l'abandon d'un mariage de raison pour une union, encore une union, moins avantageuse. Et dans Le Monde, on lira ce papier sur les Anglais qui se mettent à faire des stocks alimentaires, ne sachant pas à quelle sauce les mangera le Brexit. La Grande-Bretagne qui importe 40% de ses produits alimentaires et qui a nommé pour la première fois depuis l'après-guerre un ministre des approvisionnements en nourriture. C'est dire si dans un divorce la pension alimentaire a son importance. Des divorces dans la presse, il y en a plein. Des scènes de ménage aussi, comme celle qui oppose l'Italie à l'Europe et qui est décrite ce matin dans Libération. Les Italiens veulent dépenser, l'Europe le leur reproche. Ça ne ressemble pas à un conflit conjugal, ça. Un conflit conjugal qui a opposé il y a quelques jours, souvenez-vous, Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, à sa femme qui a rendu public sur Instagram leur divorce en posant lascivement en peignoir. Ça, c'est le divorce 2.0 à l'italienne.
Dites donc, David, ça donne pas envie d'être en couple, votre revue de presse ce matin. Vous m'avez miné.
Mais c'est un peu compliqué le mariage, surtout en Europe, surtout à 27. Mais la solution est peut-être en une de l'Union, qui n'a jamais si bien porté son nom que ce matin, puisque le journal champenois s'en est allé explorer les ressorts de l'échangisme et du libertinage. Ça peut aller au-delà de 27, à la veille du salon de l'érotisme qui aura lieu ce week-end à Reims. La solution au divorce, c'est peut-être aussi ce japonais qui vient d'épouser une chanteuse virtuelle. Il s'appelle Akihito Kondo et la femme qu'il aime, Hatsune Miku. Hatsune est au Japon une immense star numérique, une chanteuse de lumière et de pixels qui n'a pas d'existence réelle mais qui est vénérée au pays du jeu vidéo et du dessin animé. Ben oui, c'est l'AFP qui nous apprend ce matin que le jeune marié a dépensé 2 millions d'yens, soit 15 000 euros, pour des noces en présence d'une quarantaine d'invités qui peuvent témoigner de son union avec une peluche.
Mais je vous assure, les gens s'en foutent.
Ben oui, mais et alors à la maison, comment ça se passe? Eh bien, le mari vit avec un hologramme, toujours Hatsune, qui lui dit. Mais oui, l'hologramme lui dit des mots doux toute la matinée, tout le matin.
Il n'y a pas d'embrouille.
Mais il peut également se connecter, rassurez-vous, aux appareils électroménagers et faire réveil matin. Et quand on demande à Aikido pourquoi il ne veut pas se marier réellement avec une vraie femme ou un vrai homme, pourquoi pas, il répond qu'il a épousé Hatsune pour donner du courage à celles et ceux qui voudraient eux aussi épouser une créature virtuelle. L'homme n'a pas précisé comment on divorce d'un hologramme.
C'est une poupée qui fait
je vous présente ma femme, Hatsune, asseyez-vous, je vous en prie.
C'est une peluche.
On s'est connus il y a quelques temps, on se refait sur le net. Merci David Abiker, exquise votre revue de presse ce matin. Bon réveil à tous, bonne journée.
Europe 1, et il est 8h35.
À suivre, c'est votre journée, on va passer un coup de fil à Liane Folly. Elle publie avec Wendy Bouchard un ouvrage intitulé « Nos femmes de cœur », un livre pour se raconter à deux. On en parle dans un instant, 8h45, il arrive, lui il n'est pas virtuel. Il a la possibilité de se dédoubler, de devenir un autre, il y a du monde dans sa tête, mais il nous fait du bien. Nicolas Canteloup arrive, bonne journée à tous.
Il est 8h37, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
8000 personnes en colère hier soir dans les rues de Marseille. Après l'effondrement de plusieurs immeubles, ils réclament la démission du maire de la ville, Jean-Claude Gaudin. Verdict aujourd'hui pour Jean Jeutron, accusé de viol de deux ex-employés de la mairie de Draveil. L'avocat général a requis 6 ans de prison ferme. Respect et considération. Emmanuel Macron dit entendre la colère des Gilets jaunes, mais il dénonce la récupération politique. Le président de la République reconnaît aussi qu'il n'a pas réussi à réconcilier les Français avec leurs dirigeants.
Europe 1, Nico Saliagas, c'est votre journée.
Chaque jour, coup de fil à celui ou celle qui fait l'actualité. Ce matin, nous sommes en ligne avec Liane Folly. Bonjour Liane.
Bonjour Nikos.
Vous publiez un ouvrage avec Wendy Bouchard qui vient de nous rejoindre dans le studio. Ça s'appelle Nos femmes de cœur. Et vous dressez ensemble le portrait de femmes qui vous ont inspiré, guidé tout au long de votre vie. Et la palette est large. Hein. On passe de Simone Veil à Brigitte Bardot, de Muriel Robin à Mimi Mati ou encore votre maman, Liane Folly. Et Carla Bruni qui a d'ailleurs écrit la préface de cet ouvrage. Femmes, je vous aime, c'est ce que vous nous dites en substance ?
Oui, absolument. On avait très envie. Moi, je connais. J'ai rencontré Wendy. J'ai évidemment tout de suite décelé en elle non seulement une brillante journaliste, une très bonne amie, mais aussi une femme qui aimait les femmes. Sur la sororité. La sororité, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, et il y en a encore nombreux, c'est l'équivalent, en tout cas, en gros, mais pour les femmes, de la fraternité, brotherhood. Et ça a été créé par un mouvement féministe au départ. La sororité explique tout simplement l'élan de complicité entre les femmes et non de la rivalité qui a été souvent quand même au cœur de nombreuses guérillas et qui continue encore
au-dessus
malheureusement.
Au-dessus des clivages en fait, c'est une connexion qui est au-dessus des petites différences des êtres humains. Ouais.
Oui, et puis nous avons le propre désir de ce livre, avant tout évidemment de divertir, mais aussi de mettre les femmes en lumière, elles ont très besoin, et puis avec les temps, tout ce qui se passe exactement nous prouve qu'on a raison. Donc de notre enfance à aujourd'hui, celles qui nous ont guidées, léguées des choses transmises, et on a envie aussi pour les futures générations qui arrivent, eh bien, qu'elles aient un sens, qu'elles soient écrivaines, actrices, humoristes, tout simplement, vous l'avez cité, mais aussi, je pense que c'est un livre chez Grasset, on nous a fait confiance, je pense que c'est aussi un livre à entre guillemets à collection, parce que c'est infini en fait, on peut parler, les femmes de cœur touchent tout le monde, dans la littérature, l'histoire, ce qu'elles ont fait de leur vie, tout simplement.
Liane, vous êtes une femme dans le monde du spectacle, hein. Vous êtes à la fois chanteuse, actrice, imitatrice, vous faites beaucoup de choses, vous avez commencé toute petite sur scène, à 12 ans vos parents chantaient, ils vous ont pris comme ça, c'était le 14 juillet
dans l'orchestre de mon père,
à Lyon, c'était au bal des pompiers. Est-ce que c'est facile quand on est une jeune femme et qu'on veut devenir artiste, justement de trouver sa place dans un monde assez dur qui est celui du spectacle? Comment vous avez fait, vous?
Le monde dur tout court, franchement c'est très difficile chaque jour, et puis de toute façon après avoir commencé dans notre milieu, Nikos, et vous le savez bien, c'est toujours, évidemment, il faut toujours être consciente, se défendre constamment, perdurer. Les femmes, la place des femmes est beaucoup est moindre dans notre milieu. En plus, nous avons beaucoup plus à nous défendre, nous, alors que les hommes ont plus une route quand même plus facile, je dirais.
Donc il faut travailler plus, il faut avoir un peu plus d'ingéniosité, j'imagine, et d'anticiper en permanence pour éviter les écueils, et puis tous ceux qui essaient de vous mettre dans des pièges, j'imagine, ou qui sont lourdingues. C'est pas facile quand on est adolescente et qu'on essaie de chanter, prendre un micro et qu'on rêve de monter à la capitale, dans la capitale.
Oui, et puis en même temps, c'est aussi le devoir de la femme quotidiennement, de s'assumer, et puis d'avancer, et puis d'avoir foi et confiance. Je pense que ça résume aussi beaucoup de ce livre aussi, est tout à fait bienveillant, il est positif, et nous on avait envie de ça, parce que les temps nous montrent qu'on est quand même à l'opposé de cette façon de penser. Donc il faut quand même remettre des belles roses, je dirais, dans nos vides, sur nos chemins. C'est
jolie image.
Pour avancer.
On va terminer avec cette image, Liane Folly. Quelqu'un voudrait vous passer un petit message ce matin.
Ah, c'est mignon. Merci, Nikos. Des roses au cœur qui fait la une de notre couverture. Je sais que tu chantes à Beaune, chère Liane, toujours sur les routes de France. Voilà, comme belle nomade. Donc, je t'embrasse fort et je suis ravie d'avoir fait ce livre avec toi.
Nos femmes de cœur, un livre à lire. C'est Liane Folly qui était avec nous ce matin sur Europe 1. Merci, Liane.
Europe 1. Il est 8h42 à suivre, Nikos.
Il arrive à toute berzingue. Oui. Nicolas Canteloup et sa revue de presse avec Julie, déjà en studio. Et Jean-Michel Apathy, très concentré, qui veut rire. On veut rire ce matin sur Europe 1.
Exact.
A tout de suite.
Il est 8h45.
La revue de presse avec Nicolas Canteloup et Julie.
Presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et on va revenir sur le principal titre de l'actualité avec vous, Nikos. Nikos, est-ce que vous nous entendez?
Eh ouais, salut Julie. Salut à tous. On a la gouache ce matin, la patate. On a le smile, on a le power. Oui. Se sent dans l'antenne. Je ne sais pas pourquoi on fait cette gouache. Peut-être si, je sais. Peut-être parce que j'ai suivi et analysé l'interview d'Emmanuel Macron par Gilles Boulot.
Oui.
Alors je vais tout vous dire, j'aime bien Gilles, mais bon... On sent qu'il a encore les genoux légers. C'est vrai, en interview de président, c'était pas ouf. Vous, je sais pas, mais moi, je sais pas, il m'a manqué un truc. J'aurais aimé qu'il me fasse rêver, qu'il me mette les poils. Écoute, Gilou, en toute amitié, viens à la maison, je te donnerai 2-3 tuyaux.
Des cours, hein.
Bah ouais, interviewer des présidents, voilà, c'est du travail, c'est du talent, c'est du faux.
Bon, mais ça va, allez. Plus. Oui, c'est bon, c'est que vous l'avez fait brillamment. Allez,
ouais.
Merci, Nikos.
Merci. La gouache. Ouais.
C'est vrai, c'est exactement ça.
Ouais.
C'est de l'écho.
non, je m'imite parce qu'il me fait comme ça. Je parle pas comme ça dans la vie.
Vous faites jamais ouais comme ça.
Mais je fais jamais ouais dans les couloirs. Ouais.
Vous feriez bien de faire ouais dans les couloirs.
Voilà. Ouais, salut.
Même quand j'arrive dans ma salle de bain, je me vois, je dis ouais. Ça va pas.
On se round.
Alors justement, on va revenir sur cette interview du chef de l'État. Emmanuel Macron a fendu l'armure. Il est apparu plus humble, moins en force. Bonjour, monsieur le président.
Ouais.
Vous êtes des émules, cher Nico Saliaga. J'ai tout appris de vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me recevoir. Vraiment, merci. C'est très gentil de me recevoir dans votre modeste studio.
Modeste, tiens. Bon.
Écoutez, modeste. Tout de même, soyons réalistes. Je veux bien être humble et sympathique et empathique. Mais enfin, tout de même, hier, j'étais interrogé sur un porte-avions avec beaucoup d'avions de chasse autour de moi, de porte-hélicoptères. Ça avait une autre gueule que des micros bleus Harpic fraîcheur. Vous êtes-vous reconnu ?
Non. Bon alors, vous avez notamment regretté de n'avoir pas su réconcilier les Français avec leurs dirigeants.
Voilà, en toute humilité, je bats ma coulpe ce matin. Je n'ai pas su réconcilier les Français avec leurs dirigeants. Il faut dire que je passe après un sacré nombre de nazes, il faut le dire. Je ne pouvais pas faire de miracle. Je fais également mon mea culpa également pour Europe 1. C'est de ma faute. Malgré cette interview présidentielle que je vous ai accordée, je n'ai pas réussi à relancer à moi tout seul, autant que je l'aurais voulu, les audiences d'Europe 1. Mais comme moi, soyez sûr que vous démarrez votre quinquennat. Il y a de l'espoir. Le meilleur est à venir. Oui, on a la gouache, on a la patate, on a le power. On a le serein dans nous. Oui.
Très bien. Merci. Macron est avec nous. Alors, Édouard Philippe a annoncé hier une série de mesures pour dégonfler la colère, notamment celle des Gilets jaunes. Il a annoncé une super prime à la conversion de 4000 euros, un chèque énergie, une aide pour changer les chaudières au fioul.
Exactement. Écoutez, si vous changez de voiture, je vous offre. Attendez, on va mettre ma musique, ce sera plus facile à comprendre. Oui, cher Gilet jaune. Si vous changez de voiture, je vous offre, oui, j'ai bien dit, je vous offre la super prime 4000 euros. Pas 2000, pas 3000, non, 4000 euros de pouvoir d'achat en plus, mais c'est pas tout. Cher Gilette jaune, vous pouvez également gagner la méga prime chauffage. Chauffage à quoi? Chauffage à l'essence? Au gasoil? Non, la chauffage au fioul que vous pouvez cumuler avec le super banco chèque énergie. Et je rajoute pour vous, madame, oui, pour vous, monsieur également, un épluche. Pas un épluche légumes diesel, non, pas un épluche légumes sans plomb, un épluche légumes électrique. Et je rajoute pour vous un chien peluche, 100 balles et un mars.
Bon, tiens, à ce sujet, un petit détail amusant. Édouard Philippe a demandé à ce que les manifestants n'aillent pas mettre le bololo sur les routes. Le terme a fait réagir.
Mais il a raison, je ne veux pas voir la moindre route être bololée. Bololé est un verbe du quatrième groupe. Racine grecque, bolo, qui veut dire bordel.
Ah ouais. Oh, c'est ça, vous confirmez, Nikos? Non, non, quand
pas
même
du tout.
Pas. Ah
bon.
En France, on ne peut pas tolérer la bololisation des routes. Pardonnez-moi de vous le dire.
Bon, bah écoutez, là-dessus, on va vous laisser, je crois, monsieur le président. Et on part maintenant pour le Maroc, où le chef de l'État va inaugurer tout à l'heure le premier TGV marocain, et même africain, je crois, qui relie Tanger à Casablanca. On est au téléphone avec monsieur Régis. Vous êtes cheminot, bonjour monsieur.
Oui, bonjour à tout le monde. Excusez-moi une seconde. Mesdames, messieurs, salam alaikum. Je suis votre commandant de bord, Abdullah. Vous trouverez du thé à la menthe et des loukous en voiture 14. Voilà, je suis à vous, Abdoulilah.
Non mais c'est surprenant de vous voir dans ce TGV au Maroc, monsieur Régis.
Oui, mais écoutez, faut savoir exporter le savoir-faire français. C'est très bien d'exporter la science du TGV, mais ça sert à quoi si on n'exporte pas la science de la grève? Rien du tout. Nardine Mouk, elle est bien mouchée, la vedette, là. La vedette. Voilà, Nardine.
Allez, bon, c'est bon. Merci, monsieur Régis. Cette semaine est marquée par la colère des Gilets jaunes qui vont protester contre la hausse des carburants. On se souvient du C'est pas Bibi de Macron. L'augmentation est, oui, c'est vrai, essentiellement due à la hausse des carburants. Jean-Marie Le Pen, une réaction peut-être?
Et la hausse, n'est-ce pas, des carburants, c'est qui? Et c'est, il faut le dire, les Arabes. Parfaitement, n'est-ce pas?
Ah, les pays producteurs de pétrole.
Et silence, Leclerc. C'est pareil. Écoutez, ça fait 50 ans que je m'évertue à vous dire, sur tous les sujets, et que ça fait des Arabes, pour une fois que c'est vrai, je ne vais pas me gêner. Les gilets jaunes, arrêtez d'emmerder mon petit Macron. La hausse du carburant, c'est la faute des Arabes.
Ah, c'est votre petit Macron maintenant. Depuis quand?
Et depuis qu'il a dit du bien du maréchal Pétain, vive Macron.
Bon, merci monsieur
Le Pen. Je sens que vous avez la gouache, la patate, le power, le surround.
Bon, pour terminer, on va revenir sur les gilets jaunes. Christophe Castaner les a donc mis en garde. Il ne tolérera aucun débordement. On va voir ce qu'en pensent les automobilistes du côté de chez Jean-Jacques Bourdin.
Bonjour à tous, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC, Radio Manif et Carburant. Oui, nous allons parler des manifestations contre le prix de l'essence, mais nous allons ouvrir à nos voisins, à l'international, voir ce qu'en pensent nos auditeurs, puisque nous avons un auditeur britannique qui nous appelle, c'est John. Bon, John, et nous avons également Gilles. Donc John et Gilles, bonjour à vous deux.
Donc là il y a erreur, hein. Là, c'est René hein, qui est en ligne là. T'as dû te tromper Jean-Jacques là, hein.
Ah pardon, René, vous êtes en ligne. Attendez un instant, excusez-moi. Christine, qu'est-ce qui a marqué sur ma fiche là? Vous avez mis John et ensuite Gilles. Ah, Gilles et John. Non, ah, écoutez, franchement, c'est les bonnes femmes, ça. Bon, bref, excusez-moi, René, il y a méprise.
T'inquiète, Jean-Jacques, c'est pas grave. Donc je m'appelle René, je suis gilet jaune.
Oui.
Je suis tout, d'ailleurs. Je suis contestataire, quoi. Gilet jaune, bonnet rouge, chaussettes noires, fais tout ce que tu veux, quoi. Et j'en ai marre de payer l'essence trop cher, voilà, comme tous mes compatriotes, quoi. Du coup, samedi, je fais un plein de super et je vais faire des tours de rond-point pour le bloquer et protester contre les prix du carburant.
Samedi, je vais faire un plein de super et faire des tours de rond-point pour le bloquer. Mais excusez-moi, René, mais ça va vous coûter de l'essence. Est-ce que vous avez les moyens de faire comme ça pour rien des tours de rond-point?
Ah, mais faire des tours, c'est sûr que ça va me coûter de l'essence. Hein. Mais en même temps, comment tu veux que je bloque la route? Je vais pas bloquer avec un Vélib. Il faut vraiment tout bloquer. Attention, je vais demander à la grand-mère de ma femme. Là, on va tout bloquer.
Ah, la grand-mère de votre femme, pourquoi, est impliquée dans le syndicalisme, René?
Non, elle est en fauteuil roulant. Donc, on a envisagé ça, qu'on va la mettre sur la départementale 31. On lui met le sabot, tu vois, sur les roues du fauteuil pour éviter qu'elle se barre. Parce que, bon, c'est jamais, hein. Elle est quand même lucide, tu vois, à toute sa tête encore. Je pense que personne ne va oser lui rouler dessus. Hein. Il n'y a pas mieux qu'une vieille en fauteuil pour te bloquer une départementale. Hein.
Il n'y a pas mieux qu'une vieille en fauteuil pour te bloquer une départementale. Eh oui, grâce à vous, René, on se rend compte qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Merci pour votre pragmatisme, votre, je dirais, réalisme mécanique. Bon courage, René, et puis on embrasse bien sûr votre grand-mère. À vous, Julie.
Merci, Nicolas Canteloup. Bravo à Philippe Cavrivière, Laurent Vassilio et Arnaud Demanche. Vous nous faites du bien, mon cher Nicolas. Bravo. Au sommaire, ma chère Wendy Bouchard, à partir de 9h sur l'antenne d'Europe 1, le tour de la question. Et vous traitez aujourd'hui de quoi?
Alors, on est au plein cœur d'un mouvement social, hein, Gilets jaunes. Gilets jaunes samedi, la grève des enseignants lundi. Et aujourd'hui, ce sont les avocats qui manifestent. Ils sont en grève aujourd'hui, ils manifestent contre la réforme de la justice qui atteint leur métier, qui fait régresser nos droits, disent-ils aussi. Alors, on va faire le tour de cette question avec des avocats pénalistes en studio qui nous expliquent quels moyens ont-ils encore pour nous défendre. Et puis à 10h, je vais vous parler du loup, mon petit loup.
Le loup,
les croyances, les mythes destructeurs qui collent à la peau de cet animal, alors que la louve nourricière, quand même, dans l'Antiquité, celle qui nourrit Romulus et Rémus, eh bien, c'est une louve sacrée. Comment en est-on arrivé là? Attends, de bashing anti-loup.
Donc, vous allez parler à la fois de culture et de symbolique.
Absolument.
Vous dire aussi qu'un grand écrivain s'est éteint à l'âge de 83 ans. Il s'appelait Fernando del Paso, un Mexicain, très connu dans la littérature latino-américaine. Et il disait, dans tous les asiles, il est temps de fous. possédé par tant de certitudes. Hommage donc et petit clin d'œil au départ de ce grand écrivain mexicain Fernando del Paso.
À suivre l'essentiel de la matinale juste avant 9h et la météo avec Laurent Cabrol sur Europe 1. Il est 8h59, à suivre l'essentiel de la matinale avec vous Nico Salégas, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol.
Bonjour Laurent Cabrol.
Et avec un regard sur la France qui nous montre que les brouillards sont concentrés sur une grande moitié nord du pays et que dans le sud nous en avons beaucoup moins, même le soleil commence à percer à peu près partout. Alors en ce qui concerne les températures, parce que je ne parle pas des brouillards, ils vont se disperser comme hier de manière aléatoire, ils seront un peu plus têtus, je le disais, sur le nord, la Picardie et en Ile-de-France, pas sur Paris mais en Ile-de-France, mais ailleurs ça ira quand même assez bien. Les températures maximale entre 10 et 20 degrés, 12 à Paris, 16 à Lyon, 19 à Toulouse et 20 degrés à Marseille. Et demain, ce sera encore à peu près le même type de temps. Nous allons vers le froid. Et je vous en reparlerai tout à l'heure à 10h05.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Nous sommes le jeudi 15 novembre. On revient sur les moments forts de cette matinale avec vous, Nico Salégas.
L'essentiel de la matinale avec le président de la République qui s'est donc exprimé hier soir aux 20h de TF1, Emmanuel Macron, qui a tenté d'apaiser les colères à 3 jours de la mobilisation des Gilets jaunes. Interview que n'a pas raté, évidemment, Jean-Michel Apathy. Écoutez son débrief, c'était à 7h40.
Hier, il n'a pas essayé de dissuader les gens qui avaient envie d'aller manifester, d'y aller. Il était au contraire dans la pédagogie. C'était un président de la République inhabituellement modeste. Et Emmanuel Macron a eu cette phrase qui est incroyable dans la bouche d'un président de la République.
Je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants.
C'est comme un aveu d'échec. Il faut maintenant attendre la journée de samedi pour voir dans quelles conditions Emmanuel Macron pourra poursuivre son quinquennat.
Sommes-nous moins généreux qu'avant? C'est une première en 12 ans. Les dons des Français aux œuvres caritatives sont en baisse. Un vrai coup dur pour les associations. Écoutez l'appel de Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. C'était à 7h20 dans Europe 1 va plus loin.
Voilà beaucoup de courriers de donateurs fidèles depuis longtemps qui nous disent bah, « moi c'est très difficile, je vois augmenter le gaz, je vois augmenter le diesel ». Quand on regarde le budget de la Fondation Abbé Pierre, il y a seulement 2% de subventions publiques, le reste c'est de la générosité du public. Et bah, c'est autant d'aides qui seront moins accordées pour les associations ou nos actions directes. Je ne crois pas que la générosité des Français soit mise en cause si vous voulez, mais il y a vraiment une question autour du pouvoir d'achat et la capacité d'agir.
Voilà pour l'essentiel de la matinale, merci à toute l'équipe du 7-9, merci à la rédaction. Merci à vous, depuis la rentrée, de nous suivre. Le chemin est certes long, mais il est passionnant. Et avec vous, il ira loin. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Je voudrais aussi saluer tout le travail de la station. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.